crois que ça va être très 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 vite plat. Les plats au fond près du radiateur vont être vite prises. Je crois que vous en faites. Alors il y a effectivement des places dans la salle annexe. Là vous pouvez voir, soit sur écran, soit à travers les vitres. Il fait moins froid ce matin. Voilà, je crois que tout le monde rentre, alors nous allons pouvoir nous asseoir. Je n'ai pas besoin de vous présenter Dominique Vien, qui est agrégé de lettres classiques, qui est un grand ami de la fraternité depuis très très longtemps. On peut le dire d'ailleurs, formé par itinéraire, vous êtes de la génération itinéraire. Et c'est le seul laïc qui prend la parole dans ce congrès très théologique et très ecclésiastique. Je lui ai demandé justement de nous dire un petit peu ce que les fidèles attachés à la tradition, comme lui, comme sa famille, éprouvent face à un motu proprio comme traditionnis custodes. Qu'est-ce qu'ils ils ont vu comme perte, comme gain, je ne sais pas. En tout cas, je lui laisse la parole, il vous donnera une réponse convaincante et convaincue.
Merci, monsieur l'abbé, pour cette gentille introduction. Traditionis custodes, j'avais sous-titré, puis je ne l'ai pas imposé à monsieur l'abbé, comme sous-titre « Le mépris du laïcat ». Le mépris du laïcat. En réalité, traditionis custodes, c'est, d'une manière actée et définitive, le mépris total des fidèles catholiques laïcs dans leur réclamation, pour ne pas dire leur revendication. Je commencerai, si vous voulez bien, par me mettre sous les auspices du Saint-Synode Vatican II, Sancta Synodus, tout le monde sait ça. À tous les laïcs, incombe la noble charge de travailler à ce que le dessein divin du salut parvienne de plus en plus à tous les hommes, de tous les temps et de toute la terre, pas seulement les consolations, de toute la terre. La voie doit donc leur être ouverte de toutes parts pour que, selon leurs forces et selon les nécessités du temps, ils puissent activement participer, eux aussi, à l'œuvre de salut qui est celle de l'Église. Donc, vous avez compris, le Concile Vatican II, avant même l'abbé Laurence, me demande de participer au salut de toute la terre en intervenant à 15h à la chapelle de la Consolation. Bon, c'est consolant, objectivement. Ce thème du rôle des laïcs revient d'une manière récurrente, bien évidemment, dans Vatican II, dans les actes du Concile, dans les indigestes actes du Concile que plus personne ne lit. Plus personne ne lit, je ne le dis pas par ironie, mais réellement, plus personne ne lit les actes du Concile Vatican II. Dans Apostolicam Actuositatem sur l'apostolat des laïcs, dans Gaudium et Spes, nous retrouvons d'une manière récurrente cette thématique, les laïcs ont un rôle absolument essentiel à jouer. Et par conséquent, je vais faire un parcours qui ne sera pas théologique strictement, qui ne sera pas philosophique, mais qui sera plutôt anthropologique, vécu, une expérience de la sociologie des catholiques de tradition depuis 50-60 ans, pour montrer qu'effectivement, les laïcs de tradition ont joué leur rôle, et que le pape François a dit « Maintenant, la récréation est finie, c'est terminé, vous n'avez plus rien à dire. » Cette importance du laïc, du laïcat, nous l'avons vu dans l'Église post-conciliaire, dans les équipes pastorales, j'adore cette expression, équipe pastorale, il y a des photos à l'entrée des églises, équipe pastorale. On voit un col romain, dans le meilleur des cas, et puis 15 laïcs, ou des bonnes sœurs, on ne sait pas si d'ailleurs, si mes révérendes mères, si elles sont sœurs ou laïcs, puisque de toute façon, elles sont en gilet ou en chemisier. Avec, bon, ça c'est l'équipe pastorale, qui est toute puissante dans la paroisse. Les conseils des séminaires qui sont en projet, où les laïcs, et les femmes surtout, devraient avoir leur avis à donner pour l'ordination sacerdotale. Les ADAC, bien évidemment, les assemblées dominicales en absence de prêtres. Et puis, triste à dire, les obsèques. Qui arrive à obtenir les obsèques avec un curé aujourd'hui, hein? Ce sont les laïcs de service qui... Donc, le concile a été entendu, d'une certaine manière, par les laïcs. Donc, notre ligne directrice, c'est la suivante. C'est de montrer que les laïcs catholiques de tradition, d'une manière... paradoxale, ont joué leur rôle depuis 60 ans activement en fidélité avec l'esprit du Concile, en s'investissant dans la défense de la foi catholique romaine jusqu'à cette inéluctable logique et cohérente. Il y a une cohérence motu proprio traditionis custodes qui, encore une fois, siffle en quelque sorte la fin de la récréation pour les fidèles. Alors, je me concentrerai essentiellement sur la France pour deux raisons. D'une part, parce que je n'ai pas les connaissances sur ce qui se passe, ce qui s'est passé pendant 50 ans dans la tradition au niveau du monde entier. Et puis parce que la France est quand même emblématique. Corruptio optimi pessima, dit l'adage. Nous avons été la fille aînée de l'Église, nous avons été à la tête de la Révolution française et suivante, nous avons été à la tête de toutes les subversions théologiques. Et nous sommes aussi, il faut reconnaître avec une humilité fière, à la tête de la résistance. Monseigneur Lefebvre lui-même, le Lillois, n'est-ce pas, est un Français. Bon. Mon plan sera le suivant. Je vais parcourir très rapidement le rôle des laïcs dans l'histoire, sans complexe, hein, l'histoire humaine, l'histoire de l'Église, pour montrer qu'en fait, le laïcat a toujours joué un rôle important. On arrivera jusqu'au Concile de Vatican II. Je vous montrerai qu'il y a une mutation dans le rôle du laïcat, non pas dans leur rôle, mais dans leur réception par les autorités de l'Église. Je dirai un mot sur les différentes concessions, comme ça a été dit ce matin très longuement, et donc je ne développerai pas, qui ont été accordées au laïcat dans l'exercice de son droit liturgique, de son droit à être évangélisé. Et puis je conclurai bien évidemment sur l'avenir post-traditionis custodes, et je montrerai encore une fois que beaucoup de choses, beaucoup de réponses vont dépendre de l'attitude des laïcs, plus encore que des clercs. Que vont faire les laïcs face à cette oukase de Rome? Bon, le rôle des laïcs dans l'histoire. Je viens de le dire à l'instant, Vatican II dit les laïcs, les laïcs, les laïcs. Mais on n'a pas attendu Vatican II, nous autres laïcs, pour jouer notre rôle à notre modeste place dans l'histoire de l'Église et de sa doctrine et de l'évangélisation. Hein. Au deuxième siècle, en tant que latiniste, Minucius Felix, l'Octavius, c'est un ouvrage de laïc. La première apologie, peut-être avant celle de Tertullien, on hésite, est une apologie de laïc, un laïc qui répond à l'Empire romain en faisant, en luttant pied à pied contre les accusations monstrueuses portées contre les chrétiens. Bon, je glane, hein, c'est même pas des coups de sonde, ce sont des exemplats qui sont destinés aux laïcs cultivés, qui sait de quoi il s'agit, qui en a entendu parler, qui dit « Ah mais oui, c'est vrai, je n'y avais pas pensé ». Prenez au Moyen-Âge le personnage d'un Abélard qui, contraint et forcé par un châtiment assez dévirilisant, va devoir se retirer au monastère. Abélard est un laïc, au départ un philosophe laïc. On n'imagine pas, et Gilson en a beaucoup parlé, on n'imagine pas l'impact intellectuel des thèses plus ou moins hétérodoxes d'Abélard dans le mouvance de l'aristotélisme naissant au Moyen-Âge, qui toute l'Europe s'intéresse au cas Abélard. À la Renaissance, un Thomas More laïc est chargé par le roi Henri VIII lui-même de défendre la foi catholique. Mais comme il l'a défendu un petit peu trop et qu'il s'est opposé à son mariage, eh bien, il lui arrivait ce qu'il y avait de mieux pour lui, c'est-à-dire devenir un saint martyr de l'Église catholique romaine. Mais Thomas More, c'est le laïc humaniste militant par excellence, qui connaît tous les humanistes de l'Europe, mais qui, lui, à la différence de tant d'autres, ne flirtera pas avec l'hérésie protestante. Et Thomas More, qui, prudentiellement, c'est très intéressant, refuse non seulement de donner le serment que demande Henri VIII pour son remariage, mais refuse de donner son avis sur le serment. C'est une stratégie. Et il sera dit de Thomas More que son silence assourdissant est entendu dans toute l'Europe. Un silence assourdissant. Ce qui veut dire qu'un laïc peut se taire en étant compris. Ce qui est important en termes de stratégie quand on pense au « peut-être bien que oui, peut-être bien que non » qu'on trouve chez tellement de laïcs conservateurs qui n'osent pas franchir un certain pas. Hein, on peut se taire sans ambiguïté. Un Pascal, dans ses provinciales, va prendre position contre les jésuites, flirtant peut-être, se disputer par les spécialistes avec le jansénisme. Un Labruyère, c'est mieux, moins connu, va écrire un traité posthume sur le quiétisme contre Madame Guyon. Bon, Madame Guyon elle-même est une laïque, une pure laïque, qui va avoir une aura spirituelle énorme. Elle devient pratiquement directeur de conscience dans l'Europe du XVIIe siècle. On a du mal à imaginer cela, quand même. Hein. Dans le domaine de la spiritualité, au grand siècle aussi, la Compagnie du Saint-Sacrement, ce sont des laïcs qui désirent travailler à la rénovation de la foi dans la société de Louis XIVe. Bon. Alors, en littérature, c'est une efflorescence. On ne peut même pas citer le nombre de chrétiens laïcs qui ont mis leur plume au service de la foi catholique depuis les origines latines, un Lactance, un Prudence. Un chrétien de Troyes lui-même essaie de christianiser dans son Perceval ou dans d'autres de ses romans, mais c'est le plus frappant, essaie de christianiser l'amour courtois, lui donner une dimension mystique. Un Ronsard écrit contre les misères de ce temps, un Corneille écrit Polyeucte. Bon, un Chateaubriand voudra faire une apologie du christianisme et une comtesse de Ségur elle-même imprègne toute son œuvre enfantine d'une foi chrétienne immanente et implicite. Bon, donc jamais les laïcs ne se sont privés d'intervenir dans la propagation de la foi et de servir, comme le dit le Saint-Synode, au salut de tous les hommes, de tous les temps et de toute la terre. Ne parlons pas de l'art, des œuvres religieuses, architecturales, picturales, la Pietà de Michel-Ange. L'histoire, par exemple, est un domaine très, très fascinant. Je pense au XIXe siècle. Combien d'érudits laïcs du XIXe siècle, de ces hommes, de ces humanistes qui avaient du temps et de l'argent, des vicomtes et des comtes souvent, ont écrit des histoires de l'Église, ont écrit des histoires. Mais je pense par exemple à mon compatriote rouennais Paul Allard qui écrit une monumentale histoire des persécutions à la fin du XIXe siècle. Ces gens-là ont conscience qu'ils ont un devoir de témoignage, c'est très beau ça. Ils ont un devoir de témoignage dans la société de leur temps. Bon, un Louis Veuillot, bien évidemment cité ce matin, c'est l'exemple de l'homme complet qui se mêle de tout et du reste, soutenu par le pape Pie IX dans ses luttes ultramontaines contre le libéralisme. Bon. Ne parlons pas de l'action sociale, ou les confréries médiévales, ou les confréries de pénitents, et les fondations en faveur des miséreux, ou les œuvres de charité jusqu'au XIXe siècle, aux Annames, Montalembert. Bon, aux Annames, on retrouve encore une fois le côté intellectuel et l'action sociale, hein, histoire des moines d'Occident. Ben, en politique, nous avons des engagements politiques. J'allais dire Jeanne d'Arc, mais c'est un engagement politico-religieux, mystérieux, suscité par la Providence. Jeanne d'Arc est-elle une sainte purement religieuse, une mystique ou une militante politique? C'est les deux, c'est indissociable, parce que le mystère de l'Église s'inscrit et les voix qu'elle entend s'inscrivent dans un dessein politique de Dieu. C'est comme ça, ce n'est pas contournable, hein. Garcia Moreno, très très connu dans nos milieux parce qu'il a été victime, bon, et même militaire. Qu'est-ce que c'est que l'engagement des laïcs de Vendée, des laïcs Chouan, des laïcs Cristeros? Qu'est-ce que c'est que l'engagement, le franchissement du pont anti-arien de Clovis pour l'Église catholique romaine? Bon, eh bien, c'est un engagement, finalement, au service de l'Église. Donc, ce que j'ai voulu dire simplement par ces quelques allusions de départ déjà trop longues, c'est que nous n'avons pas attendu le Concile Vatican II pour nous engager. Et vous allez très vite comprendre qu'il y a, comme on l'a dit 100 fois, comme l'abbé Glaise l'a dit ce matin, il y a une duplicité dans les textes, il y a dans l'apparence d'orthodoxie, dans l'apparence de tradition de tous les textes post-conciliaires ou conciliaires, une lecture orthodoxe possible, et en fait, en réalité, un dessein sous-jacent. C'est qu'après Vatican II, les laïcs sont engagés, oui, à être participants de la hiérarchie de l'Église, de la dimension sacerdotale. Ils sont prêtres à leur manière, et c'est tout le problème de la nouvelle messe, ce que n'ont jamais, jamais demandé ni les Clovis, ni les Pascal, ni les Veuillot. Jamais les laïcs n'ont revendiqué, d'une manière ou d'une autre, de prendre la place des clercs à quelque niveau que ce soit, à quelque niveau que ce soit. Dans les temps modernes, ces rôles des laïcs se précipitent. Et c'est pour ça que mon introduction historique est un petit peu longue, mais parce qu'il y a une logique, il y a une cohérence, je crois, providentielle. C'est très impressionnant de voir, en tant que professeur de lettres, la précipitation au XXe siècle, après ce stupide XIXe siècle, après ce siècle de rationalisme, de positivisme bête et obtus, de voir les floraisons soudaines de laïcs qui, en littérature, par exemple, vont se mettre à faire de leur foi l'objet même, ou disons, le fil conducteur de leur œuvre. Hein. Huysmans, Bourget, Péguy, Claudel, Bernanos, Mauriac, avec des nuances souvent sur l'échiquier géopolitique très, très différentes, mais tous s'assument comme catholiques, jusqu'à l'Académie française. Hein. Mauriac est de l'Académie française. Bon, c'est un phénomène inouï, impensable au XIXe siècle. Il y a une reconnaissance sociale du rôle des laïcs dans le monde intellectuel. À la Sorbonne, je pense toujours à un Gilson. Il est dit dans les biographies d'Étienne Gilson, qui pour moi est un maître et un esprit supérieur. Étienne Gilson introduit le droit de citer de la philosophie scolastique à la Sorbonne positiviste, à la Sorbonne des Sorbonnards et des Sorbonicoles. Et à partir de maintenant, ça nous paraît évident, depuis 1920, il y a des chaires de philosophie scolastique, il y a des thèses de philosophie scolastique, et notre hôte, l'abbé Cellier, a soutenu en Sorbonne sa thèse de philosophie thomiste. Bon, c'était impensable autrefois. Ces laïcs ont joué leur rôle. Ils l'ont joué éminemment, ils en seront récompensés au jour du jugement. Ce qui fait que ma génération a connu des vieux professeurs maintenant disparus. Les Jacques Fontaine, les Henri, René Maroux, les Mandouze, à l'extrême gauche du catholicisme, étaient professeurs en Sorbonne, catholiques, patentés, estampillés. Bon, ce qui est un phénomène social auquel on n'a pas encore assez réfléchi. Donc, je pense qu'il faut avoir ça en tête, une bonne fois pour toutes. Les laïcs n'ont pas attendu les incantations de Vatican II sur leur rôle pour s'engager au service de l'Église et du salut des âmes. Non seulement ils ont toujours joué leur rôle, c'est important, mais on ne leur a jamais reproché. Même quand les ouvrages sont par-ci, par-là, mis à l'index ou soupçonnés ou qu'il y a des polémiques, jamais on entend dans les siècles passés, surtout pas au XVIIe siècle, des gens dire « Madame Guyon, vous n'avez pas le droit d'être directrice spirituelle. Monsieur Labruyère, vous n'avez pas le droit de vous occuper. Madame, Monsieur Pascal, vous n'avez pas le droit de vous occuper. Ça ne vous regarde pas. » Jamais. Il y a une espèce de gentleman agreement entre un laïcat soumis à la hiérarchie qui milite à la mesure de ses charismes intellectuels pour la foi de l'Église, avec des errements. Je n'ai pas donné un blanc-seing à Pascal et à son œuvre, mais peu importe, on admet qu'ils jouent leur rôle. Et comme par miracle, en 63-65, d'un seul coup, on découvrirait que le laïcat, enfin, va jouer un rôle dans l'Église. Mais il ne faut pas être dupe, l'événement a montré, post-Eventum, que le but recherché, c'était ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir amener le laïcat à se substituer peu à peu, n'est-ce pas, l'assemblée des fidèles, la messe, qui est la synaxe, n'est-ce pas, qui est l'assemblée du peuple de Dieu sous la présidence du prêtre. C'était ça le but ultime, hein, qui n'avait jamais été remarqué. Et c'est contre cela que les catholiques traditionnalistes, entre autres, se sont élevés. Et on a abouti dans les années 60, ma génération, et c'est là que ça devient intéressant parce qu'il y a une question générationnelle, les catholiques traditionnalistes se sont engagés dans un combat à corps perdu, dans une fidélité totale à la hiérarchie sacerdoce laïca. Ce que n'ont pas fait les laïcs militants du progressisme, qui ont largement supplanté les clercs et qui les ont menés à la baguette dans les équipes pastorales. Et je suis bien tranquille que bien des vieux prêtres post-conciliaires, si c'était honnête, diraient « J'ai été tyrannisé, n'est-ce pas, par les chaisières, par mon organiste, par mon équipe pastorale, etc. Et en fait, j'ai filé doux parce que c'était invivable si je ne leur obéissais pas. » En fait, la réalité, elle est là. Les laïcs ont pris un pouvoir. Et vous savez très bien que maintenant, le dada de nos progressistes, c'est d'introduire des femmes dans les instances instances des séminaires, dans les instances décisionnelles épiscopales, dans les instances de la curie, le pape François lui-même, bon, parce que la femme, c'est un super laïc. Il faut reconnaître que qu'est-ce que c'est qu'un homme laïc. Déjà, dans un couple, c'est la femme qui commande, alors, a fortiori, dans l'Église. Alors, le militantisme des catholiques pendant des siècles et des siècles, deux millénaires, le paradigme, comme on dit aujourd'hui, change après Vatican II et d'une manière significative. C'est la première fois que les laïcs qui vont s'engager s'engagent contre leur hiérarchie. Dans le temps, un Pascal a pour lui des évêques jansénistes, mais a contre lui des évêques anti-jansénistes. Un Veuillot a contre lui des évêques gallicans, mais a pour lui des évêques ultramontains et le pape Pie IX. La marque de fabrique du catholique traditionnel post-Vatican II, c'est qu'il a toute la hiérarchie de l'Église contre lui. Ça demande un sacré caractère. Tout le monde est contre le laïc qui, à partir de 60-65, commence à dire « Excusez-moi, Monseigneur, mais là, il y a un petit problème doctrinal. » Et je crois qu'il faut absolument rendre hommage à cette génération, c'est la nôtre, monsieur l'abbé, qui, contre vents et marées, bon an mal an, s'est moqué éperdument des injonctions épiscopales qui voulaient, comme dit Thomas More dans un de ses interrogatoires, n'est-ce pas, mais à ses interrogatoires, mais vos menaces feraient peur à un enfant, mais pas à moi. Ben nous, ça fait peur à un enfant, mais pas à nous. Eh bien, ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est peut-être la première fois, peut-être à l'époque de l'arianisme, où, globalement, les fidèles de l'orthodoxie sont en butte à toute la hiérarchie, sans exception. Et là, on va avoir l'efflorescence à nouveau de grands noms, oubliés d'ailleurs maintenant, un bon nombre. Je fais un tout petit coup de sonde. Il y en a un grand nombre que je ne nomme pas. Choisir, c'est omettre, et omettre, c'est être injuste. Mais je pense qu'il y a réellement, on en parlait ce midi à table, parce que nous avons mangé quand même, il faudrait écrire cette histoire exhaustive du combat traditionnel depuis le Concile, et restituer tous les noms, même ceux qui sont passés 5 minutes aux informations. Ils ont joué leur rôle en 63, 4, 5, 10, etc. Bon, bien sûr, il y a l'immense Jean Madiran itinéraire qui m'a formé et qui a été dans le combat pied à pied, Monseigneur Marty, les luttes avec Monseigneur Marty, hein, rendez-nous le catéchisme et la messe, le processus de la communion dans la main, hein, ce sont des choses qui, dont la génération des sexagénaires dont je suis se souvient, le quart d'heure de Paul VI, vous avez oublié ça, Paul VI autorisant l'absorption de liquide à quart d'heure avant le... Jean Madiran s'est battu pied à pied pour cela, et itinéraire a été un organe qui a, je crois, conforté, aidé, voire suscité des vocations. Bon, mais la Cité catholique de Jean Housset, qui deviendra ensuite l'Office international, les silencieux de l'Église, qui se souvient de Pierre Debray, bon, qui a joué un rôle très important, avec des options très post-éventum, très timide, avec un respect pour la hiérarchie, parce qu'on ne pouvait pas savoir. Louis Salleron, la nouvelle messe, hein. Étienne Gilson, qui s'est, même lui, l'universitaire, sur le consubstantiel, s'est fendu d'un certain nombre d'articles et de réflexions, hein. Michel de Saint-Pierre, le romancier à la mode, a écrit Les Nouveaux Prêtres, qui a eu un tirage phénoménal, qui a été mis, en scène, etc. Bon, donc, je veux dire par là que chacun a joué son rôle. Et puis, il y a eu les journaux, il y a eu Monde et Vie, il y a eu Présent, il y a eu des articles d'Henri Varol. Tout journal un peu conservateur s'est senti concerné par le combat traditionnaliste. Et puis, les mouvements, le scoutisme, la fondation du MJCF, l'action familiale et scolaire. Encore une fois, quiconque m'entend pourra dire « Oui, mais vous n'avez pas cité parce que je ne me souviens plus, parce que ça ne revient pas à la mémoire immédiatement, parce qu'on ne peut pas citer tout le monde. » Mais que de laïcs se sont engagés, hein, qui pour la défense de la vie, qui pour la défense de la famille, hein, le MJCF, le mouvement catholique des familles à des époques très récentes. Tous ces mouvements ont en commun d'être numériquement groupusculaire. Ça n'est rien. Dans l'univers catholique des années 65-70, c'est une pincée. Ce sont les apôtres avant la Pentecôte. Hein. C'est rien du tout. Il aurait pu avoir une désespérance colossale, mais ils ont espéré. Et pourquoi ? Et c'est là que nous rentrons dans quelque chose de mystérieux. parce qu'ils avaient des prêtres. Ils ont eu l'abbé Coache, ils ont eu l'abbé de Nantes, ils ont eu le père Barbara, ils ont eu Monseigneur Lefebvre, qui étaient là pour leur dire « Vous n'êtes pas tout seul dans le combat, nous sommes là et nous vous donnerons les sacrements et puis les prêtres et puis les grecs. » Et inversement, ces laïcs étaient là pour dire à ces prêtres découragés, qui sont morts de chagrin quand on leur a retiré l'ancienne messe pour un bon nombre de vieux prêtres, les laïcs étaient là pour leur dire « Ne vous découragez pas, nous sommes là. Si vous reprenez l'ancienne liturgie, nous repeuplerons vos églises. » Et de fait, je peux témoigner, j'ai vu des églises vides, vides, qui se sont remplies parce que l'abbé en question revenait peu à peu, discrètement, on parle des années 70, 11, 12, à l'ancienne liturgie, d'abord le latin, puis le canon, etc. Et enfin, à la liturgie de toujours, et ces églises étaient archi-combles. Et avec l'argent qui va avec, bien sûr, il faut voir, ça sera ma conclusion, il n'y a que le porte-monnaie, ça a été dit ce matin, qui peut aider nos évêques. Donc, voilà, globalement, si vous voulez, un parcours très réconfortant. Les laïcs n'ont jamais manqué à leur rôle dans l'histoire de l'Église, ils ont pris des coups et c'est leur boulot, c'est normal. Un laïc, je le redirai, n'est pas susceptible d'être suspendu à divinis. Donc, s'il est lâche, franchement, qu'est-ce qu'il a à perdre ? Alors que la messe de 76 de Monseigneur Lefebvre, la messe de Lille et la suspense, c'est un acte de courage insurmontable. Les laïcs qui viennent soutiennent Monseigneur Lefebvre, mais qu'est-ce qu'ils ont à refaire ? Une excommunication de laïcs ? Vous voyez le pape dire « J'excommunie tous les laïcs qui de près ou de loin sont traditionnels, mais ça n'existe pas !» Donc nos quatre valeureux évêques ont été excommuniés, point final. Bon, le laïc n'a rien à craindre. Raison de plus pour qu'ils s'engagent. Et quand les prêtres le savent, ils ont le courage d'aller de l'avant. Et quand ils se couchent le soir un peu fatigués, découragés, le matin, ils savent qu'ils vont rencontrer des laïcs qui les soutiennent financièrement, qui les soutiennent par leur amitié, par leur prière, bien sûr. Ne négligeons pas, dans les années 60, le nombre de prêtres exclus, de prêtres qui étaient condamnés à être girovagues parce qu'ils avaient été virés, pour parler vulgairement, de leur congrégation ou de leur paroisse, et qui ont été hébergés, tout simplement hébergés par des laïcs, hein, qui les ont pris chez eux, qui les ont lavés, blanchis, parce qu'il fallait bien qu'ils aient quelque part où vivre. Bon, et je parle pour les jeunes générations, les toutes jeunes générations, qui n'imaginent pas ce qu'a été ce combat, hein, pied à pied. Des messes où les laïcs prêtaient leur appartement, où la messe de Noël avait lieu dans un salon, où on s'est assis à 25 dans 12 mètres carrés. Bon, ça a été une réalité. Hein. Donc gardons-nous d'un certain embourgeoisement. Et pourquoi les laïcs ont-ils ainsi milité ? Pour une raison qui tient en deux mots, l'état de nécessité. L'état de nécessité, pour moi, est le mot clé de tout le militantisme laïc. Un laïc, normalement, ça respecte la hiérarchie, ça respecte le droit canon, ça file doux lorsqu'on lui dit « attention, ça se fait pas, attention, vous n'avez pas le droit, attention, c'est illégitime, attention, l'Église, bon. » Mais quand il y a l'état de nécessité, j'allais dire, tout est permis et tout est obligatoire. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix à partir du Concile. Hein. Et je me rappelle, ma génération, j'étais adolescent, nous ne nous sommes pas posé la question, avant même la nouvelle messe, quand on nous a traduit de même nature que le Père, ce qui est une hérésie, a dit Gilson, hein, ma famille et moi, j'avais 12, 13 ans, on disait consubstantiel au Père, pendant que les autres disaient de même nature, ça fait un peu désordre dans les rangs, dans l'Église, mais peu importe. Bon, et nous récitions l'ancien Notre Père pendant que les autres récitaient le nouveau Notre Père. On a fait notre boulot à notre modeste rang de laïc de base. Bon, plutôt ciel que tous l'eussent fait ainsi. Parce qu'à l'état de nécessité, on rentre dans l'hérésie, on rentre dans l'apostasie, on ne peut pas ne rien faire. Et je vais décrire un peu ce qu'est cet état de nécessité qui va de pair avec un autre état, avec une autre considération qui est peu souvent formulée et qui pourtant va de soi, c'est la suspicion légitime. La suspicion légitime, ça veut dire que dans les années 60, 65, 70, 75, 80. Après, les choses ont été plus claires quand la tradition a eu son corpus assumé. Vous ne pouviez jamais avoir la certitude que l'abbé que vous aviez en face de vous, que l'aumônier que vous avez en face de vous, que la dame catéchiste que vous aviez en face de vous, vous ne pouviez jamais avoir la certitude morale qu'elle professait la foi catholique romaine. Je suis désolé, c'est cruel à dire, mais comme l'a dit Saint Pidis, ouvrez les ouvrages des modernistes, une page est totalement orthodoxe, la page suivante est totalement hérétique. Donc, nous avons été confrontés à cette suspicion légitime. Nous ne pouvions pas faire confiance à nos clercs. Nous ne pouvons pas faire confiance aux médias catholiques. Nous ne pouvions pas laisser entrer la vie ou la croix dans les maisons. Nous ne pouvions pas confier nos enfants à un catéchisme. Enfin, nous ne pouvions pas, mes parents, nos grands-parents, nous ne pouvions pas confier nos jeunes générations à des gens qui étaient tourneboulés par l'esprit du Concile. Ça n'est pas possible. Donc cette suspicion légitime est le corollaire de l'état de nécessité. Et c'est important parce que la suspicion légitime, je pense à l'allocution de l'abbé Glaise ce matin, qui est très importante, dans les textes même, ce qui est dit n'est pas forcément ce qui est désiré, ou ce n'est pas forcément le dessein explicite. L'autorité romaine est capable de dire des choses en ayant autre chose en tête, et c'est ce qu'on appelle la suspicion légitime. Et l'état de nécessité, et c'est là que j'en viens à l'essentiel, au cœur de mon allocution sur le laïcat, l'état de nécessité est indivis. On ne fait pas son marché dans l'état de nécessité. Et ça explique pour cette tranquillité d'âme de la fraternité Saint-Pidis. Je ne suis pas un fidèle de la fraternité, je suis un fidèle de l'Église catholique romaine, mais hic et nunc, c'est la fraternité qui répond d'une manière parfaitement sécuritaire à l'état de nécessité. C'est comme ça et pas autrement. Vous êtes un laïc des années 70 au moment de la nouvelle messe. Au début, c'est la nouvelle messe qui vous importe essentiellement. On change la messe, ça ressemble à rien, qu'est-ce que c'est? Le bref examen de la messe, elle est suspecte, elle n'est pas orthodoxe, ça dit Cardinal Tolini, Cardinal Bacci, donc j'y vais pas. Très bien, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans en 70, je suis un grand garçon, je suis une grande fille, je choisis l'ancienne messe. Le problème, c'est que je vais me marier. Je vais me marier et je vais avoir des enfants. Je vais avoir des enfants, mais je vais avoir aussi une vie maritale, une vie conjugale. Humanévité. Tout de suite, humanévité, les gens ont oublié. Le nombre de couples catholiques ou prétendus tels qui post-concile vont s'asseoir sur humanévité. Vont utiliser la pilule. L'épiscopat français, pratiquement, a acté sa non-réception d'humanévité. Comment voulez-vous construire une vie familiale conjugale et une sexualité catholique si dès le départ vous dites je suis catholique romain, je vais à la messe de Paul VI, mais humanévité, franchement, ça fait partie des options personnelles, etc. Or, c'est des faits qui ont été oubliés, les gens ont oublié les combats contre ou pour humanévité. Donc je me marie et je suis déjà obligé à l'état de nécessité, je rentre dans un état de vie où je vais respecter la doctrine catholique romaine la plus stricte. Et la famille est la racine de cet état de nécessité. En réalité, on ne comprend rien à la crise, et les anthropologues de demain le verront très bien, c'est une question de la famille catholique. Toute la résistance du post-concile, ce n'est pas la résistance, avec toute l'affection que j'ai pour eux, des célibataires catholiques, c'est la résistance des familles catholiques. Hein? Lumen Gentium, le Saint-Concile, le Saint-Synode. Le terrain d'exercice et l'école par excellence de l'apostolat des laïcs se trouve là, dans la famille, où la religion chrétienne pénètre toute l'organisation de la vie et la transforme chaque jour davantage. Toujours le même Gentium, paragraphe 11. Les parents sont les premiers à transmettre la foi à leurs enfants et à en être auprès d'eux les éducateurs. Lumen Gentium, apostolicam actuositatem. Le devoir des époux, c'est d'affirmer avec vigueur le droit et le devoir assigné aux parents et aux tuteurs d'élever chrétiennement leurs enfants, etc. À la seconde où vous êtes un catholique marié ayant des enfants en 70, vous ne pouvez plus souscrire au post-concile sans en être redevable au jour du jugement devant Dieu. Et je pense que c'est un fait anthropologique à la fois magnifique et terrifiant. Du coup, tout s'ensuit, cette indivision. Je vais faire baptiser mes enfants, mais selon quel rite? Le baptême, effectivement, ex opere operato, je le baptise au nom du Père, mais les exorcismes qui ont été sucrés par la réforme, ils n'étaient pas utiles autrefois. Alors s'ils n'étaient pas utiles, pourquoi l'Église les a-t-elle proposés? Et s'ils étaient utiles, pourquoi ont-ils été supprimés? On a le droit, en tant que parents, on a le droit d'avoir un baptême complet, exorcisme compris. Ensuite, mes enfants vont grandir. Je peux les catéchiser à la maison, bien sûr, mais ils iront aussi peut-être au catéchisme avec des dames catéchistes. J'en ai connu dans les années 62, 3, 4. Ces dames catéchistes, elles utiliseront quoi? Pierre vivante? Les gens ont oublié pierre vivante. Mais ça a fait des polémiques fabuleuses. Le catéchisme hollandais, il m'a dit rang à consacrer des pages et des pages sur le catéchisme hollandais qui était techniquement et ontologiquement hérétique et schismatique. Donc, je ne peux pas confier mes enfants à des catéchistes laïcs ou clercs qui soient suspects, suspicion légitime, d'hétérodoxie. Je les emmène à la messe. La question ne se pose pas, on en a parlé depuis ce matin. Bien évidemment, ce sera la messe ancienne. Oui, mais, et là je rentre dans la perspective ecclésiadei au sens très large du terme. J'ai la messe ancienne, mais le quid du sermon? Si le célébrant, qui est un bon zig, qui aime bien les ors et les encens, n'est-ce pas, finalement me fait un sermon pourri jusqu'à la moelle, après une liturgie traditionnelle, je vais dire à mes enfants, bouchez-vous les oreilles. Et combien d'entre nous, de ma génération, ont souffert juste avant la nouvelle messe, années 60, on souffrait, on sortait, on avait perdu toute sérénité spirituelle, on disait, combien de conneries, pardonnez-moi, il a pu dire ce prêtre, mais c'est honteux, mais enfin c'est, et malgré tout, comme il n'y avait rien d'autre, on y allait. Je parle des années 67, 8, 9, qu'est-ce que vous vouliez faire? C'était la messe catholique romaine. Bon. Mais le curé commençait à dérailler, il n'y a pas d'autre terme, sortir des rails. Et puis les enfants vont grandir, on va les amener à l'école, mais quelle école? L'école publique, l'école privée, hors contrat. Alors beaucoup font le choix prudentiel, et ça les regarde, c'est un choix, bon, de bonnes écoles sous contrat, où les profs gardent peut-être encore quelque chose de la ligne pédagogique traditionnelle, mais quid de la pastorale? Quid de la décérébration aux messes hebdomadaires ou mensuelles, obligatoires? Or, l'enseignement des papes, je pense à Pie XI, est terrible là-dessus. Nous avons une responsabilité effroyable sur la formation des écoles, nos enfants, n'est-ce pas? Et puis les activités périphériques, un enfant de 9, 8, 10, 12 ans, on va le mettre au scout, on va le mettre dans des activités de son âge. Mais vous allez les envoyer dans un scoutisme dévoyé, mixte, amoral, n'est-ce pas, sans colonne vertébrale. Et puis viendront en grandissant les pèlerinages, les sessions, tout un archipel, n'est-ce pas, où vous ne pouvez pas en conscience remettre vos enfants sans inquiétude. À l'adolescence, c'est la naissance des passions, c'est la nature humaine, c'est la concupiscence, etc. À qui votre enfant va-t-il se confesser? Qui va le guider spirituellement sur tout ce qui bouillonne en lui pour qu'il ait une sage et mesurée direction spirituelle sur tout ce qui concerne la chair, tout ce qui concerne... Bon, on sait très très bien qu'un certain progressisme a ouvert les vannes d'un laxisme dans les questions de la morale conjugale à un point qui fait frémir. Et puis va arriver l'âge de la vocation. Et on retourne à la case départ. Mes enfants vont se marier. Alors, quand ils se marieront, comment? Ils auront des enfants? Comment les enduire? Et s'il a une vocation religieuse, quelle congrégation? Quel séminaire? Pour apprendre quoi? De la sociologie? Pour apprendre à Heidegger, Thiers de Chardin? Pour aller dans une vague université où ils ne feront pas un mot de latin? Ou bien dans une communauté qui garde quelque chose d'énergique, n'est-ce pas, de conservateur, voire de traditionnel. Bon, donc, peu à peu, par la force des choses, sur 20, 30, 40 ans, nous autres laïcs, mis à part nos révérendes mères, je parle à pratiquement à tout le monde ici, nous avons retroussé nos manches et nous avons fondé, nous avons construit, nous avons initié tout ce qui existait dans l'Église des années 20, des années 30, mais qui était dévoyé. Il a fallu tout reconstruire. tout reconstruire. Cette histoire de la reconstruction complète, encore une fois, demande son historien, son anthropologue, son sociologue, et elle occupera des milliers de pages. Elle rendra honneur à tous ceux qui ont œuvré publiquement ou anonymement à cette reconstruction. Il a fallu tout reconstruire. Et à partir du moment où on a tout reconstruit, la suspicion légitime disparaît. Et cet état de nécessité a fait que nous avons choisi effectivement ce qu'on appelle le camp tradit. Et c'est ce qu'on appelle cette sphère d'activité et de sécurité morale, liturgique, philosophique, sociale. Ben c'est la très, très dénoncée, la très, calomniée, catosphère. J'aime bien ce terme, je l'assume. La catosphère, oui. Les catholiques conservateurs, les catholiques traditionnels, ont reconstitué une sphère leur permettant de vivre et de s'accroître. C'est merveilleux, la sphère. La sphère garde ses proportions. Quelle que soit son amplitude, elle peut grandir toujours. Le rapport de pi, n'est-ce pas, du rayon au périmètre, est toujours le même. Bon, mais elle peut grandir indéfiniment. La sphère, c'est très beau. Mais catosphère, c'est péjoratif. Bon. Surtout quand catosphère est pratiquement synonyme de fachosphère. Bon, mais dès lors qu'on est dans la catosphère, on est dans la fachosphère. C'est si on demande l'avis de la Croix ou de BFM TV, évidemment. Bien, mais j'assume, nous avons recréé une sphère de catholicité qui autrefois était la normalité du monde entier et de l'Église catholique romaine, et l'Église catholique romaine n'a plus voulu l'assumer, donc il a fallu la reconstruire. Et cette catosphère implique un état de nécessité absolue où on ne peut plus avoir d'état d'âme. On ne peut pas à chaque seconde se demander « Oui, mais alors ça, je vais enseigner tel catéchisme à mon enfant. Est-ce que je vais demander à Monseigneur l'évêque l'autorisation ?» Mais ça, par contre, il va recevoir les sacrements de pénitence. Mais est-ce qu'il sera valide, etc. Tout ceci a été résolu par la fraternité. Désolé de le dire à ceux qui n'en sont pas. Résolu parce qu'il y a des canons pour cela, parce que la théologie de l'Église l'a toujours dit, prima lex salus animarum, et c'est ce que j'ai lu au début. Et moi, laïque, on m'a demandé de travailler au salut de tous les hommes, de tous les temps, de toute la terre. Donc, franchement, j'ai fait mon boulot, il n'y a pas de raison de me le reprocher. Eh bien, vous ne pouvez pas risquer que vos enfants ne sauvent pas leur âme sous prétexte qu'il y a un petit problème juridico-canonique qui est en suspens, et je vais faire appel à Rome, qui à Rome me dira « Silence dans les rangs, vous obéissez au concile et à votre curé ». Bon, c'est à mourir de rire. Quand on verra les choses avec le recul, la question qui se posera ne sera pas celle de la désobéissance apparente des catholiques traditionnels. C'est exactement la question inverse. Ça sera « Comment a-t-on pu obéir à des ordres prévaricateurs ?» Voilà la vraie question. Mais tant que la génération conciliaire n'est pas morte, on n'a pas cette... Et pourquoi ? Encore un adage scolastique. Parce que le vice, le défaut, le mal, c'est un « quicumque defectus », un certain manque. Le vitium est quicumque defectus. Ce qui est mal, c'est un certain manque, et ce certain manque, il apparaît partout, d'une manière aléatoire, d'une manière mystérieuse, n'est-ce pas ? Et les parents en sont juges en leur âme et conscience, pour leur enfant et pour eux-mêmes. Bon, et vous voyez, je suis très loin du problème sacerdotal, parce que le prêtre, avec tout le respect que j'ai pour la fonction ecclésiastique, d'une certaine manière, il est son propre maître. Il peut célébrer sa messe pour lui, il peut sauver sa messe, il peut se confesser à un confrère de même sensibilité que lui. Mais quand vous êtes des familles, quand vous êtes une foultitude de chrétiens qui a le devoir de la messe dominicale, que voulez-vous faire ? Allez mendier à chaque fois, monsieur le curé, vous pouvez bien nous enseigner un catéchisme orthodoxe, etc. Je suis désolé, j'ai pierre vivante, je ne peux pas faire autrement, monseigneur l'évêque ne verrait pas la bonne oeil, etc. Bon, là encore une fois, c'est à mourir de rire. Ces scrupules sont à mourir de rire. Et quand on voit avec le recul, bon, j'en viens à traditionnis custodes. Vous comprenez, mon préambule interminable en vient à la... Je suis ad rem, je suis vraiment dans le sujet. Que vont faire ceux qui sont confrontés au coup d'arrêt de traditionis custodis et qui ont reconstruit, et c'est là que ça devient très intéressant, je parle d'Ecclesia Dei au sens large, ceux qui ont, j'en reviens pas là-dessus, qui ont bénéficié des motu proprio, des indultes, etc. depuis 40 ans, avec tout ce qui a été dit ce matin et qui est d'une pertinence à laquelle je souscris totalement, à savoir permission, sous condition, avec en même temps une duplicité éventuelle du discours, etc., etc., et qui ont cru vivre pendant quelques décennies une tranquillité totale. J'ai entendu de la bouche de laïcs, j'ai entendu, vous l'avez tous entendu, nous avons tous entendu, peut-être même l'avez-vous dit vous-même, mais l'état de nécessité, c'est fini maintenant, il n'y a plus d'état de nécessité. C'est le pape Benoît XVI a réglé la question, c'est, non pas rentrer dans le rang forcément, mais cesser d'être dans la suspicion légitime, cesser d'être ronchon, grognon, et cette bénédiction du ciel qui s'appelle le pape François, cette bénédiction, je le dis, et je souscris à mon propos, c'est déjà ça, je suis d'accord avec moi-même, mais c'est une bénédiction pour l'Église. Il a résolu un dilemme, il a, en quelque sorte, dissous le scrupule, pour ceux qui veulent bien entendre ou voir, de générations de chrétiens, en leur disant, on y verra tout à l'heure, mais non, c'est parfaitement exact. Il y a une nouvelle ecclésiologie, il y a une nouvelle messe, il y a une nouvelle doctrine. Hein. Les tradis avaient entièrement raison de rejeter Vatican II, puisque ce n'est plus notre Église. Voilà ce que dit substantiellement le pape François. Bon, et les laïcs, alors je recite encore Apostolicam Actuositatem, hein. C'est très intéressant de voir ce que nous faisons actuellement ici même, en ce colloque. Outre la formation spirituelle, une solide connaissance doctrinale est requise en matière théologique chez les laïcs, morale et philosophique. Cette connaissance devrait être adaptée à l'âge, aux conditions de vie ainsi qu'aux aptitudes de chacun. Les laïcs consacrés à l'apostolat disposent déjà de nombreux moyens de formation. Sessions, congrès, si sinono, récollections, exercices spirituels, Saint-Ignace, rencontres fréquentes, conférences, livres, commentaires. Il n'y a pas encore Internet au moment du Concile. Permettent d'approfondir la connaissance de l'Écriture sainte, de la doctrine catholique. Mais très saint synode, et c'est exactement ce qu'on fait. On obéit, il n'y a pas plus conciliaire que les tradis. Bon, ces œuvres de formation sont fonction des différentes formes d'apostolat. Dans ce but, ont même été créés des centres d'études ou des instituts supérieurs qui ont déjà donné d'excellents résultats. L'Institut Universitaire Saint-Pédis. Le Concile, alors c'était délicieux, le Concile se réjouit des initiatives de ce genre et de leur rayonnement déjà florissant. Hein. Il préconise la création de centres de formation, d'études, de documentation en matière théologique, en sciences humaines, anthropologie, psychologie, sociologie, méthodologie, afin de développer les attitudes des laïcs, hommes, femmes, jeunes, adultes, pour tous les secteurs de l'apostolat. C'est merveilleux, nous sommes totalement dans la lignée post-conciliaire. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas tout à fait l'option doctrinale du Concile. Donc, je vais pouvoir abréger toute la partie qui était consacrée aux différents indultes, etc. Dans cet état de nécessité, Rome, fine mouche, a bien senti qu'il fallait récupérer un certain nombre de laïcs qui leur échappaient et a proposé des indultes, des motu proprio, etc. On en a parlé ce matin, n'est-ce pas? Et il y a différentes attitudes. Et ces attitudes, encore une fois, malgré mon ironie peut-être féroce, je ne les juge pas. Encore une fois, le laïc qui, en conscience éclairée, fait un choix, c'est son problème. Au jour du jugement, il en rendra compte comme je rendrai compte de mes choix. Le laïc totalement Vatican II, aucun problème, tout baigne. Il va chanter « Youp Youp Petit Jésus » avec de la batterie et de la guitare dans son église d'à côté. Il se donne la main autour de l'autel pendant la consécration. Il trouve que c'est merveilleux, donc celui-là, il n'a pas d'état d'âme. Le laïc perplexe, rappelez-vous, Monseigneur Lefebvre, lettre aux catholiques perplexes. Il continue à aller dans sa paroisse et puis il serre les dents, il maugrait, mais après tout, monsieur le curé, c'est monsieur le curé, monseigneur l'évêque, c'est monseigneur l'évêque. Il avale des couleuvres et puis voilà, il est mal à l'aise. Et là, il y a un problème de conscience quand même. Si on est mal à l'aise, le sensus fidei ou le sensus catholicus devrait lui dire c'est pas normal, tu devrais te sentir épanoui dans ton activité liturgique. Le laïc réactionnaire va fonder un tas de d'œuvres. Et les ecclésiadei en ont fondé quantité, comme la fraternité. Seulement, attention, nous, c'est version obéissante. Hein. Il y a le mauvais chasseur, il y a le bon chasseur. Nous, on obéit, on fait pareil que vous, mais c'est pas pareil. Enfin, vous saisissez, parce que on nous en veut pas en haut lieu. Oui, ça durera combien de temps? Ah, mais ça dure, il n'y a plus d'état de nécessité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, on verra dans une seconde, les tentations sont multiples de donner des gages. Et c'est là que la conscience du laïc est quand même sollicité. Jusqu'où vais-je donner des gages, hein? Les grands événements qui ont été oubliés par les jeunes générations, enfin qui ont été oubliés, mais que nous avons vécu, la messe de Lille en 76, la suspense à Divinis, quelque chose. Monseigneur Lefebvre est passé outre, une foule de gens se sont accrochés à lui, nonobstant une suspense qui, au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, c'était quelque chose d'effroyable. Ne parlons pas des excommunications. L'excommunication a fait peur à Jean Madiran lui-même. L'un des laïcs les plus engagés n'a pas voulu franchir le pas. Hein? Et c'est très triste. Moi qui étais un lecteur d'itinéraire depuis l'âge de 12 ans, ça m'a fendu le cœur. Mais c'est, quelque chose a été rompu dans notre amitié intellectuelle. Si je ne me trompe, sur ces très très vieux jours, Madiran a reconnu que Monseigneur avait raison. Donc, vous voyez, le laïc n'est pas un théologien, le laïc n'est pas prêtre, mais il a quand même une vie intellectuelle, il n'est pas idiot. Et le cheminement de la conscience éclairée peut être complexe et long. Donc, ceci pour dire que mes propos, même sévères, ne sont pas polémiques, il n'y a aucune inimitié. Nous sommes tous, qui que nous soyons dans cette assemblée, nous avons tous des amis qui ont fait une option, qui vont du progressisme échevelé à la tradition la plus pure ou la plus et qui ne changent rien aux valeurs humaines, qui ne changent rien à l'engagement spirituel, qui ne changent rien à la piété. C'est un autre problème. Ne mélangeons pas les ordres. Le secret des âmes ne nous regarde pas. Par contre, tout ce qui est au fort externe, à savoir la défense de la foi catholique romaine, doit requérir une intransigeance absolue. Hein. Et c'est ce que dit encore, ce concile est merveilleux, franchement. Il y a tout dans le concile. Gaudium et spes. Les laïcs, conscients des exigences de leur foi et nourris de sa force, qui n'hésitent pas au moment opportun à prendre de nouvelles initiatives et en assurer la réalisation. C'est à leur conscience préalablement formée qu'il revient d'inscrire la loi divine dans la cité terrestre, qu'ils attendent des prêtres lumières et forces spirituelles. Attention. Je ne parle pas pour les prêtres de la fatalité. Qui ne pensent pas pour autant que leur pasteur ait une compétence telle qu'il puisse fournir une solution concrète et immédiate à tout problème, même grave, qui se présente à eux. Mais éclairés par la sagesse chrétienne, prêtant fidèlement attention à l'enseignement du magistère, c'est ce qu'on fait, qu'ils prennent eux-mêmes leurs responsabilités. Ah, ça fait plaisir de voir que le Concile nous a signé un blanc-seing pour notre action traditionnelle. Et puis, il y aura des conflits, inévitablement. Les fidèles ont des visions chrétiennes des choses qui les inclinera à telle ou telle solution. D'autres fidèles, avec une égale sincérité, pourront en juger autrement, comme il advient souvent et à bon droit. S'il arrive que beaucoup lient facilement, même contre la volonté des intéressés, les options des uns ou des autres avec le message évangélique, on se souviendra en pareil cas que personne n'a le droit de revendiquer d'une manière exclusive pour son opinion l'autorité de l'Église. Je ne revendique pas pour mon opinion l'autorité de l'Église, je revendique pour mon catéchisme traditionnel l'autorité de l'Église. Mais ça m'amuse beaucoup de voir que le Concile a déjà prévu qu'il y aurait des bisbilles entre laïcs et qu'il faut essayer quand même de s'entendre pas trop mal. Alors, les concessions de Rome vont donc répondre à une stratégie, mais la réponse des laïcs à ces concessions de Rome vont être fondée sur du scrupule, ou de la lâcheté. Le scrupule, je n'en suis pas juge, chacun porte sa croix. La lâcheté, au fort externe en tout cas, nous avons le droit d'avoir plus qu'une opinion là-dessus. Hein. Et ça, c'est extrêmement important. La version obéissante de la tradition, celle que Traditionis Custodes va essayer de canaliser, c'est-à-dire la tradition liturgique muselée, tenue en laisse. Cette tradition, elle a fait l'expérience. Comme Mgr Lefebvre disait, laissez-nous faire l'expérience de la tradition. Elle a fait 30 ans d'expérience, Ecclesia Dei, au sens très large du terme. Mais au prix de quelle couleuvre à avaler? Au prix de quelle couleuvre à avaler? Hein, serrer la pince de Monseigneur quand il vient faire des petites visites à la chapelle en disant Monseigneur merci, merci pour votre bonté, votre générosité, alors que ce salopard d'évêque, pardonnez-moi, à côté et en dehors de cette visite pastorale, ne cesse de casser la tradition, ne cesse de soutenir les mauvais journaux, ne cesse de se répandre dans les médias en pique venimeuse contre la tradition, mais on est bien obligé, pour maintenir la messe dans notre petit lieu, de faire des courbettes. On est bien obligé ou pas? Scrupule de conscience ou lâcheté? C'est leur problème. Rite ordinaire, rite extraordinaire. Mais de penser que, l'abbé Blaise en a parlé ce matin, qu'un catholique traditionnel puisse employer le terme, enfin, jouer ce jeu langagier de ordinaire, extraordinaire auquel il ne croit pas lui-même, entre quatre yeux et entre deux portes, quel est le catholique laïque ecclésiastique qui croit à cette distinction fondamentalement, hein? C'est de faire prendre, bon. La concélébration de la messe chrismale, là ça concerne les prêtres. Bon, le biritualisme, tout ça a été dit ce matin, j'y reviens pas. Vos enfants vont fréquenter des prêtres, des mouvements scouts, qui peu à peu vont leur insinuer que, mais oui, mais tu peux aller à la messe moderne, mais enfin, tant tes parents c'est des raides, oh là là, ils sont psychorigides, y a pas, c'est pas monstrueux, etc. Bon, moi je veux bien, mais quid de leur foi catholique romaine dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans? Donc, la vraie question, elle est celle de l'honnêteté de l'agir face à des oukases romains manifestement injustes et manifestement orientés vers une hétérodoxie voulue obstinément. Je vais être encore plus dur. Les canonisations en Syrie, hein, Saint Jean 23, Saint Paul VI, Saint Paul VI, celui qui haïssait la messe ancienne, enfin qui l'a déclarée interdite contre toute évidence, celui qui a dit moi plus que quiconque j'ai le culte de l'homme. Bon, Saint Jean-Paul II, j'ai eu à connaître mille fois de sa doctrine sur le judaïsme, le peuple élu. Benoît XVI, pas encore saint, mais il n'est pas mort, c'est pas de sa faute, mais ça sera bien. Santo subito, ça sera bientôt. Je veux dire, un minimum d'honnêteté requis des laïcs. Or, je ne suis pas sûr que les laïcs soient prêts à ce courage de l'honnêteté vis-à-vis de leur clerc et vis-à-vis. Et c'est pour cela que je dis, et j'approche, je suis vraiment dans les trois dernières minutes, ce pape est une bénédiction. Ce pape est une bénédiction parce que d'un seul coup, les yeux se dessillent. Celui qui a des yeux pour voir, qu'il voit. Le pape nous dit, et ça t'a explicité, non, la tradition n'est plus recevable car l'Église a changé et je suis dans une nouvelle ecclésiologie. Par conséquent, j'interdis ceci, ceci, cela. Et ce qui est intéressant, c'est que ce pape, les premières réactions laïques à ce pape, elles n'ont pas été sur des questions doctrinales, mais sur des questions sociétales. Si vous reprenez les salons belges, les forums catholiques, tout ce monde où navigue, c'est sur l'immigration que le pape a choqué, scandalisé 99% des catholiques, un tout petit peu conservateurs. Soutien à une immigration musulmane massive. Discours duplice sur la sexualité, la normalité, le mariage. Écologisme mystique avec la Pachamama et là. Et même jusqu'à la vulgate sur la vaccination au Vatican. C'est fabuleux. Ce pape s'est tiré une balle dans le pied, croyant aborder des sujets qui ne concerneraient pas la conscience catholique, et manque de chance, 99% des catholiques conservateurs, qu'ils soient traditionnalistes purs et durs ou simplement conservateurs, se sont sentis visés beaucoup plus que par les problèmes de Nouvelle Messe. Et du coup, j'allais dire, la parole s'est libérée. Alors évidemment, pardonnez-moi, mais diplomatiquement, une certaine déclaration commune des directeurs d'institutions ecclésiastiques et de congrégations religieuses se sont permis d'implorer, de supplier le Saint-Père en lui baisant les pieds, en lui disant « Il y a sûrement un malentendu, c'est le Saint-Père, sur ta papa. Vous ne pouvez pas vouloir ça !» Les laïcs ont réagi très différemment. Et je suis très intéressé pour l'avenir, et c'est vraiment ma quasi-conclusion, quelle va être l'attitude des laïcs qui ruent dans les brancards, qui ne tiennent pas le même langage que leurs autorités ecclésiastiques, qui vont manifester dans la rue, qui font des chapelets dans les églises dont on les jette, qui célèbrent des messes devant des églises fermées, etc. Tout est dans les mains des laïcs. si les laïcs sont faibles, courageux, s'ils protestent, bougonnent, râlent, maugraient, s'ils ne paient pas l'ordonnée du culte, s'ils disent « fini maintenant, terminé, plus un centime pour les... » Peut-être que les prêtres hésitants, les clercs hésitants se diront « bon, la base nous suit, alors précédons-les. » S'ils craquent en laissant tomber, en disant « bon, on fera avec ce qu'on aura, on ira à la messe de Paul VI, on dira à nos enfants à la maison, tu sais, si une messe n'est pas très bonne, bon, et puis le scoutisme, on prendra ce qu'on aura, et puis les journaux, on lira ce qu'on pourra. » S'ils acceptent de renoncer à la catosphère, parce que c'est une épée de Damoclès, attention, rappelez-vous, pour les plus anciens d'entre nous, le nullam partem, qui est dans l'indulte de 84, que Madiran a beaucoup écrit là-dessus, le pape donnait la messe, a été évoqué ce matin, à ceux qui n'ont aucune part avec la tradition, nullam partem, après traditionnis custodes, si on leur dit, maintenant, c'est bien gentil, vous avez la petite messe, mais si jamais vous manifestez, attention, responsa, dans les responsa, l'évêque pourra donner la messe de Saint-Pie V sur une période définie. Et à la fin de la période définie, il y aura la possibilité de vérifier que tout est en harmonie avec l'orientation établie par le motu proprio. Le résultat de cette vérification peut motiver la prolongation ou la suspension de la concession. C'est-à-dire, vous continuez à râler au club des hommes en noir, terminé. Vous continuez à dire du mal de Vatican II sur le forum catholique, terminé. Mais moi, je suis pour rien, c'est pas moi, il se trouve qu'il est avec moi à l'église, mais en réalité, je ne connais pas ce monsieur, ce n'est pas moi, je ne connais pas cet homme. Hein. Non, je ne veux pas le savoir, Monseigneur l'évêque a dit, vous êtes un groupe subversif, hop, je vous retire la messe. Et puis, vous n'aurez plus le droit de lire les journaux, et puis vous n'aurez plus le droit d'emmener vos enfants à tel pèlerinage de chrétienté, etc. Normalement, en bonne logique, c'est ce que j'ai appelé l'indivision, en bonne logique, et c'était la question que posait M. l'abbé dans le titre, qu'est-ce que les catholiques ont à perdre avec traditionnis custodes? S'ils cèdent, ils ont tout à perdre, tout, sans exception. Leur univers s'effondre du mariage aux obsèques, sans prêtre. S'ils ne cèdent pas, ils ont tout à gagner. Et je crois que la principale, enfin ce sera en tout cas mon option de catholique militant, le principal champ d'apostolat dans les mois qui vont venir, c'est de convaincre les catholiques fidèles à la foi, mais modérés dans leur agir, qu'ils n'ont aucun intérêt à continuer le statu quo. Je vous remercie.
Merci infiniment, monsieur. La chaleur des applaudissements me dispense de vous complimenter. Tout le monde est d'accord avec ce que vous avez dit. Évidemment, c'est extraordinaire avec Dominique Bien, que je connais depuis un certain temps. C'est cette capacité pédagogique qu'il a en plein, on peut le dire, en pleine période postprandiale, c'est-à-dire après le repas, alors que les esprits sont un petit peu embrumés, les estomacs un peu alourdis, de nous réveiller, de nous aiguillonner, de fonctionner comme le poisson torpille de Socrate. Et ça, vous l'avez remarqué, comment présenter le discours le plus orthodoxe avec un maximum de paradoxes. Ça, c'est chapeau. Merci. Je vais maintenant donner la parole. Alors, le programme est comme ce matin, c'est-à-dire que nous avons deux conférences, une pause librairie-café, et puis la conférence de M. l'abbé Pagliarelli. Donc, maintenant, nous allons donner la parole à M. l'abbé Espinasse, qui va, d'ailleurs, vous allez tout à fait comprendre, suivre le fil conducteur de cette journée. Nous avons entendu donc ce que les laïcs ont à perdre, et bien on a compris que s'ils cédaient, ils avaient tout à perdre, que s'ils ne cédaient pas, et au contraire, s'ils résistaient, ils avaient tout à gagner. Et alors on va demander maintenant à M. l'abbé Espinasse, qui est le directeur du site du district de France, le Porte Latine, et qui est un bon lecteur de ces sociologues du catholicisme que sont Jérôme Fourquet, Guillaume Cuchet, de nous dire un petit peu comment est reçu ce traditionnisme custodes actuellement. Et qu'êtes-nous, comment est-ce que c'est reçu? Ce matin, on en a parlé théoriquement, là, M. l'abbé va nous en parler pratiquement, et j'ose même le dire, géographiquement.
Merci, M. l'abbé.
Alors vous attendiez un scoop. Vous ne l'aurez pas. Il ne s'agit pas d'une conférence d'actualité. Il faut se méfier avec le pape François qui est tellement actif. Si on cherche à être à la dernière actualité, on risque toujours de se faire doubler par la gauche, évidemment, mais de se faire doubler. Alors après, effectivement, des analyses historiques et théologiques, cette conférence voudrait présenter un jugement donc pastoral sur les mesures de traditionnis custodes en portant un regard sur la situation française. En effet, le pape François l'a précisé dans son motu proprio traditionis custodes. Il indique qu'il a pris ses décisions après l'examen rigoureux, soigneux, des résultats d'une consultation lancée auprès des évêques en avril 2020. La Congrégation pour la doctrine de la foi a envoyé un questionnaire aux évêques sur l'application du motu proprio summorum pontificum. Et c'est à partir des résultats de cette consultation que le pape François a pris, dit-il, ses décisions. Alors quel jugement porter sur ces mesures au vu de la situation pastorale des diocèses français? Et tout d'abord, quelle est la place des groupes summorum pontificum dans les diocèses que ces mesures visent directement? Alors quelques chiffres, c'est toujours pratique de se réfugier, d'adire quelques chiffres. Après plus de 10 ans d'application de ce motu proprio de Benoît XVI, on pourrait dire que c'est une petite minorité en croissance. Je copie d'ailleurs un article de la Nef, un article de la Croix, daté de juillet 2021, estime, en suivant l'abbé Barthes, que le nombre de lieux qui accueillent des messes en latin a plus que doublé depuis 2007. Monsieur l'abbé Portail nous avait dit 120 en 2007. L'article de la Nef l'estime à maintenant 250 lieux de culte, bon, d'inégale importance, répartis de manière très inégale sur le territoire. La moitié est tenue par des prêtres diocésains, et tous les commentateurs notent que c'est surtout eux qui ont beaucoup cru pendant cette période, qui ont bénéficié de cette largesse de Benoît XVI. L'auteur de l'étude de la Nef estime qu'il représente environ 60 000 fidèles. Alors, le calcul me paraît un peu large, 4% des pratiquants français, c'est-à-dire 4% des fidèles présents chaque dimanche à la messe, mais sur cet ensemble, ces 4% suivent la messe dans ces groupes summorum pontificum, que ce soit donc diocésain ou dans les sociétés Ecclesia Dei, sachant que 1,8% des Français assistent à la messe chaque dimanche. Là, c'est bien pour chaque dimanche. Donc une petite minorité d'une petite minorité, voilà, 60 000 fidèles environ, avec donc une très grande disparition entre les diocèses. Une note de la Conférence des évêques de France indique que seuls 4 diocèses en France n'ont pas de messe traditionnelle célébrée dans le cadre du motu proprio summorum pontificum. Commentaire aussi, commentaire de l'article de la Nef, c'est que pour l'observateur extérieur, le plus étonnant est que ce monde continue inexorablement à croître. Une minorité active qui fait du bruit, des familles nombreuses avec un fort taux de transmission de la foi et qui fournit un nombre élevé de vocations au regard de leur nombre. On a bien quasiment chaque année maintenant, c'est comme un marronnier, on a des articles qui nous précisent qu'environ 20% des ordinations en France sont pour le rite traditionnel. Mais au-delà de ces chiffres, il paraît important de saisir comment les évêques perçoivent cette présence dans les diocèses. Quelle est leur appréciation sur leur activité apostolique? Un rapport de la Conférence des évêques de France propose une synthèse des réponses fournies par 87 diocèses au questionnaire donc de la commission de la doctrine de la foi. Ce rapport n'a pas été publié officiellement, c'est un rapport officiel, et Mgr Le Born, qui est chargé pour l'épiscopat français des relations avec les communautés traditionnaliste, Mgr Le Born l'a qualifié sur KTO de document de travail. Donc c'est pas officiel, même si bon, la Croix, par exemple, n'hésite pas à l'utiliser en disant que c'est à en parler. Alors première ligne, qu'en pensent les évêques? Première ligne de ce rapport, tout va bien. Où en est dans votre diocèse l'application du motu proprio summorum pontificum? La synthèse précise, dans la plupart des diocèses, la situation semble apaisée. Mais question 2. On commence à sentir que le feu couve sous la cendre. Cet apaisement cache une dissension qui sera précisée par la suite. L'évêque agit par délicatesse pastorale. Bon, manque d'enthousiasme. Et la question suivante,
dans des aspects positifs et négatifs de la présence de ces groupes dans les diocèses. Quelques aspects positifs et une avalanche d'aspects négatifs. Quelques aspects positifs, j'en cite un, la célébration ad orientem, ça fait toujours très chic, même chez les évêques de France, d'employer quelques mots de latin, la célébration ad orientem comme remède au cléricalisme. Bon, voilà, ça c'est l'aspect très positif. Donc, nous participons à la fraternité à lutter contre le cléricalisme. Et puis une avalanche donc d'aspects négatifs. Cette célébration blesse l'unité de l'Église, entretient la contestation du Concile Vatican II, une mentalité de résistance. Ce sont des communautés très critiques vis-à-vis de, citation, l'Église conciliaire. Ce sont des groupes qui agissent en milieu fermé, isolé, replié, et déjà arrive, ce qu'a répété beaucoup de fois dans le document, on arrive à la question du refus de la concélébration, spécialement par les prêtres de la fraternité Saint-Pierre, même lors de la messe chrismale, et le document précise que cela est contraire à ce que demandait le pape Benoît XVI. Peu de participation à la vie diocésaine et difficultés liées à l'usage d'un autre calendrier liturgique et d'un autre lectionnaire. Voilà ce que soulèvent les évêques français. Et puis on en fait de cela un droit revendiqué, alors que les dispositions de Benoît XVI n'en parlaient que comme une concession. Les normes de Summorum Pontificum sont-elles respectées ? La plupart estiment que ces normes sont respectées. Cependant, une dizaine d'évêques notent que si la lettre du motu proprio semble respectée, il n'en est pas de même de son esprit. L'adhésion est formelle et n'empêche pas de s'interroger sur la position parfois critique, voire suspicieuse, de ces communautés à l'égard de l'Église conciliaire au-delà de la liturgie. Et de nouveau, mention de la fraternité Saint-Pierre, qui veut célébrer exclusivement la messe traditionnelle. Et puis rendez-vous compte, leurs catéchèses sont souvent éloignées des propositions diocésaines. C'est grave, on se demande pourquoi. Dans le document, certaines remarques montrent que les évêques perçoivent le dynamisme de ces communautés. Les messes sont promues par de jeunes familles nombreuses. Et ils ne nient pas, c'est-à-dire qu'ils affirment d'ailleurs, l'influence sur les séminaires de ces groupes et de cette messe à l'insu des formateurs. Certains séminaristes s'y forment par eux-mêmes, dès qu'ils sont en dehors du séminaire. Ils s'y forment par eux-mêmes, par leur réseau, en vacances. Cette influence, je cite, n'est pas complètement négligeable sur les séminaristes. Belle litote. Et la question conclut presque le rapport, une question. Pourquoi un tel engouement chez les jeunes ? Pourquoi un tel engouement chez les jeunes ? Donc ce rapport témoigne d'une influence des traditionalistes, en tout cas de ces communautés Ecclesia Dei et autres groupes Summorum Pontificum, spécialement auprès des jeunes, des séminaristes, donc place importante dans la vie de l'Église, qui est jugée inquiétante. Et l'adhésion réelle de ces communautés aux enseignements conciliaires est remise en cause spécialement pour la fraternité de Saint-Pierre, spécialement à cause du rattachement à la messe traditionnelle. Et pourtant la critique de ces communautés est très mesurée. Si on s'en tient aux positions officielles de ces groupes, finalement de ces communautés par rapport à Vatican II et à la nouvelle messe, eh bien ils adhèrent. Ils adhèrent à des visions communes de tous ces groupes à Vatican II. Je pense qu'on peut faire confiance, ne pas les supposer, ne pas les penser qu'ils font preuve de duplicité lorsqu'ils disent, donc c'est la lettre qu'ils ont adressée au pape François, suite au motu proprio Traditionis Custodes, donc lettre très officielle et qui a été diffusée dans tous les bulletins. Nous réaffirmons notre adhésion au magistère, y compris à celui de Vatican II et à ce qui suit. Nous réaffirmons notre adhésion au magistère, y compris à Vatican II et à ce qui suit. Selon la doctrine catholique, l'assentiment qui lui est dû, comme le prouvent les nombreuses études et thèses de doctorat faites par plusieurs d'entre nous depuis 33 ans. Donc c'est pas une adhésion simplement formelle, non. Non, nous adhérons intellectuellement à ce concile, peut-être vu selon l'herméneutique de la continuité, mais nous y adhérons. C'est notre position. Nous ne mettons pas en cause, voilà la position officielle de ces communautés. Et pourquoi les soupçonner de mensonges ? Par rapport à la nouvelle messe, les situations sont très diverses. Beaucoup de prêtres diocésains célèbrent les deux messes. Des instituts célèbrent officiellement et régulièrement les deux rites, comme la Fraternité Saint-Thomas-Becket, la Congrégation des missionnaires de la Miséricorde divine. L'Institut du Christ-Roi célèbre habituellement le rite traditionnel, mais accepte la concélébration. C'est pourquoi l'évêque de Montauban a déclaré qu'il leur confie une paroisse personnelle. Pas de problème, dit-il. Les relations avec l'Institut sont excellentes. Ils font un travail remarquable et sont toujours présents pour les grandes célébrations diocésaines, comme la messe chrismale. Une déclaration, c'est toujours un peu difficile de trouver des déclarations pour cet institut, mais voilà, l'évêque de Montauban accepte tout à fait leur présence parce qu'ils ne remettent pas du tout en cause l'adhésion à la nouvelle messe. Ils y participent lors de toutes les grandes occasions du diocèse. On pourrait dire, il est intéressant de regarder aussi la position de la Fraternité de Saint-Pierre, puisque on pourrait dire que ils refusent, eux, toute concélébration. Pour quel motif? Quels sont les motifs qui reviennent à chaque fois? Leur supérieur général, élu en 2018, a donné une interview à l'ANEF et aborde cette question de la célébration, de la concélébration de la nouvelle messe. Et pourquoi alors refuser? Pourquoi justifier ce refus absolu de célébrer et de concélébrer? Plusieurs arguments. Premier argument, déjà, il y a d'autres signes de communion. Voilà, cette question de la concélébration se pose différemment selon les pays. En France, elle a pris une très grande importance au point d'éclipser les autres signes de communion. Mais il y en a d'autres signes de communion. On peut la manifester par autre chose. Et puis, c'est notre charisme propre. Voilà pourquoi on ne célèbre que ça. C'est notre charisme propre. Et puis, à vrai dire, on a le droit avec nous, puisque l'attachement exclusif de la Fraternité Saint-Pierre à la messe traditionnelle a été approuvé par Saint-Siège. Notre fondation a été approuvée par Saint-Siège en 1988. Nous sommes fidèles à nos actes fondateurs. Et puis, le droit canon reconnaît à tous les prêtres la faculté de ne pas concélébrer. On ne peut pas nous l'imposer. Voilà les arguments à apporter d'abord. Ce n'est qu'en conclusion que le supérieur général souligne que ce motif, ce refus de concélébrer, suivant le nouveau rite, est une façon de rappeler les réserves. Les termes sont bien choisis. Les réserves émises par la Fraternité de Saint-Pierre au sujet de la réforme liturgique. Notre choix est certes dû à un attachement à cette forme liturgique, mais rappelle aussi les insuffisances de la forme ordinaire. C'est pour la raison pour laquelle, étant donné que nous n'y sommes pas obligés, nous ne souhaitons pas la célébrer ni la concélébrer. Voilà la position, on peut dire, la plus dure dans ces communautés qui célèbrent la messe en profitant du motu proprio sumorum pontificum. Au plus dur, c'est qu'ils ont quelques réserves sur la célébration, sur le nouvel ordo de la messe de Paul VI. On revoit, on peut dire que c'est une contestation qui est très réservée, très légère. Reste qu'une suspicion de contestation, même légère, de la pastorale conciliaire. Est-ce possible dans l'Église aujourd'hui? Rien n'est moins sûr, et c'est ce que montrent les mesures de traditionnis custoses, des mesures draconiennes, dans le but de faire disparaître ces groupes des diocèses. Et vous savez, Portail a déjà parlé des mesures des motu proprio qui précèdent. Arrive traditionnis custoses. Je voudrais reprendre rapidement ces mesures pour montrer qu'elles sont fermes, concrètes, et finalement laissent peu de marge de manœuvre, même à l'évêque. Même à l'évêque, qui est pourtant présenté comme le gardien de la tradition. Et même lui, s'il applique les mesures de Rome, même sans en rajouter, il y a finalement très peu de marge de manœuvre. C'est ce que souligne d'ailleurs l'un d'entre eux, Monseigneur Ray, dans un article où il se plaint finalement qu'on avait donné à l'évêque la place de juger les situations particulières. Et il se dit quelque peu étonné des réponses aux doubias qui semblent enlever à l'évêque ce que traditionnis custodes lui confiait, la responsabilité de gérer des situations particulières. Alors, quelles sont ces directives? Limitation drastique des lieux de célébration. Ils doivent être définis, c'est-à-dire que le rite traditionnel est exclu de tous les autres lieux. Exclusion des églises paroissiales et même des annonces. Faut quand même être précis. Mais le but, on le sait, c'est de bien montrer que ça ne fait pas partie de la vie paroissiale. Et l'impossibilité de faire autrement, si on met un de ces groupes dans une église paroissiale, doit être évaluée avec un soin scrupuleux. C'est-à-dire l'encadrement. Et puis, c'est l'effet de cliquet. Voilà, interdiction d'ériger nouveaux groupes. S'il y a mouvement, s'il y a changement, c'est uniquement dans le sens de la suppression. Il faudra même évaluer la nécessité de maintenir les paroisses personnelles érigées pour la célébration de l'ancien missel. Ceci, c'est dans le troisième paragraphe du motu proprio de Traditionis Custodes. Limitation des temps de célébration, là encore, ça ne va pas de soi que ça soit, la messe soit dite tous les jours doivent être prévus selon le besoin, on encadre le binage d'une manière très, très précise. Limitation aussi drastique des ministres de la messe. Tous devront pratiquer le Novus Ordo Missae s'ils veulent célébrer la messe traditionnelle. Il faut s'assurer, dit le pape François dans son motu proprio, c'est le troisième article, que de tels groupes n'excluent pas la validité et la légitimité de la réforme liturgique des préceptes du Concile Vatican II et du magistère des souverains pontifes. Alors comment juger de cette adhésion? Est-ce que c'est juste on demande une petite adhésion formelle et puis après vous faites ce que vous voulez? Non. Les réponses au Dubia précisent le désir explicite de ne pas participer à la concélébration, en particulier à la messe chrismale, semble exprimer un manque d'acceptation de la réforme liturgique et de communion ecclésiale avec l'évêque, deux conditions nécessaires pour bénéficier de la concession de célébrer avec le Missale Romanum de 1962. Vous refusez de concélébrer, eh bien alors, c'est signe, ça sera pris comme un signe que vous refusez, vous n'acceptez pas assez la réforme liturgique. Et puis le motu proprio de François, ses articles 4 et 5, établit un système de demande d'autorisation des célébrants, même le plus dur, c'est pour les prêtres ordonnés après le motu proprio. Les réponses au Dubia ont bien précisé que la demande auprès de Rome que doivent faire les évêques, les évêques doivent accorder une permission, mais pour accorder cette permission, ils doivent demander à Rome. Et cet avis de Rome n'est pas consultatif, précisent les réponses au Dubia, mais c'est une autorisation nécessaire. Réponse au doute suivant, on recommande aussi que ces facultés soient accordées à tempus. Voilà, il faudra revoir si c'est encore nécessaire au-delà de quelques années. Y a-t-il besoin de se faire remplacer? Je ne sais pas, mettons que le prêtre qui a eu la possibilité, la faculté de célébrer l'ancien missel et attraper une maladie très dangereuse, il ne peut pas célébrer finalement. Il a à côté de lui un confrère qui lui n'a pas eu cette faculté, eh bien non. Si ce confrère n'a pas eu cette faculté, il pourra peut-être le remplacer, mais ça sera dans le rite moderne. C'est une des réponses au Dubia. Et puis, l'imitation drastique des livres liturgiques autorisés. Les seules interdictions, on en a beaucoup parlé, c'est suite à une question d'un évêque français, d'ailleurs. Ces questions ne sortent pas de nulle part, puisque les évêques ont posé les questions à Rome. Monseigneur Lebrun, qui est chargé avec Monseigneur Leborgne des relations avec les communautés traditionnelles, c'est Monseigneur Lebrun qui dit avoir posé cette question à propos du pontifical et du rituel. Je ne sais pas si on peut le remercier, mais en tout cas la réponse était précise. Interdiction du pontifical, donc des confirmations et des ordinations. Et puis le rituel, donc baptême, mariage, pénitence, extrême onction. Je ne sais pas comment ils vont faire pour vérifier, par exemple, la pénitence. Mais, le rituel ne pourra être utilisé que dans les paroisses personnelles. Il y en a 6 en France. Limitation encore de l'usage du latin. Voilà, les lectures seront directement en français dans la traduction liturgique du nouveau rite. Et puis petite mesquinerie supplémentaire. Sans autorisation d'éditer un livre mettant les textes dans l'ordre du missel de 62. On voit que si Traditionis Custodes rappelle que c'est l'évêque qui est le gardien de la liturgie dans son diocèse, la marge de manœuvre de l'évêque est étroitement encadrée. S'il applique, si les évêques appliquent, on va voir s'ils vont faire, encore l'histoire est à faire, on va faire de bilan maintenant, l'histoire est à faire, mais s'ils appliquent, même sans en rajouter, les mesures de Traditionis Custodes, précisées, dont la mise en œuvre est précisée par la réponse aux doutes émis par les évêques, eh bien, ils peuvent finalement pas faire grand-chose. Ils ne peuvent pas. Et l'interprétation de la loi, mais c'est la plus large possible, elle ne peut pas laisser beaucoup d'espoir à ceux qu'elle impacte. Alors, espoir, on pourrait les mettre dans les évêques. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelle est la réception des évêques français? Au moment où le pape François a sorti le motu proprio, avant les Dubia, les évêques français se sont montrés plutôt rassurant. Sur KTO, Monseigneur Leborgne s'est même dit plutôt surpris est surpris surtout par le ton, pas tant par le contenu. Le ton qu'il qualifie de dur, et puis il se veut rassurant. Bon, faut dialoguer, faut faire tomber les incompréhensions. Et il précise toutefois qu'il y a des questions à résoudre. Et il le précise, c'est intéressant parce qu'il avait sur le plateau un prêtre de la fraternité Saint-Pierre, qui est, dont j'ai momentanément oublié le nom, mais qui est aumônier du pèlerinage de chrétienté. Et il dit par exemple, exemple de questions à résoudre, Benoît XVI avait rappelé qu'il ne fallait pas exclure par principe le nouveau rite. Nous n'avons pas la même compréhension de cette phrase. Pour certains, ne pas l'exclure par principe n'exclut pas de ne jamais la célébrer. C'est ce que pense celui d'en face. Ce que je comprends, moi, comme exclure par principe. On voit le danger. Avant la réponse au Dubia, j'ai fait un petit voyage dans les communiqués des évêques français, et puis grâce aux précisions de certains confrères, dont j'ai pu appeler tout le district, non presque, j'ai voir comment c'était vraiment mis en œuvre. Alors certains communiqués précisent que tout se passe bien, on ne change rien. Le diocèse de Nanterre a un communiqué au ton très bienveillant. D'autres communiqués, on a l'impression vraiment que bon, c'est arrivé pendant l'été. L'été, c'est un moment difficile. Alors, il y a certains communiqués, on a l'impression qu'ils ne parlent pour ne rien dire. Monseigneur Ulrich, dans le diocèse de Lille, donc je lis attentivement tous ces communiqués. Le pape nous invite au discernement. Discerner, c'est toujours ce que j'ai fait. Je continuerai à discerner. Voilà qui a dû rassurer beaucoup de monde. Alors, de fait, il n'a rien changé pour l'instant dans son diocèse. Voilà. Les communiqués même les plus bienveillants ou des évêques qui ne changent rien rappellent tous l'adhésion nécessaire à Vatican II qu'ils disent constater dans ces communautés. Monseigneur Hayet, il me semble pouvoir attester que les prêtres assurant dans le diocèse de Bayonne le service de la liturgie selon le missel de 62 adhèrent pleinement au Concile Vatican II, reconnaissent la légitimité du missel de 1970, expression par excellence de la lex orandi de l'Église latine, et cultivent un sens aigu de la communion ecclésiale. Monseigneur Le Gall, qui était archevêque de Toulouse, qui vient d'être remplacé puisqu'il a atteint l'âge de la retraite, ne change rien dans son diocèse, applique sans en rajouter toutes les mesures prévu par Benoît XVI, nomme un référent, maintient tous les prêtres et instituts qui célébraient dans son diocèse la messe traditionnelle, il ne change rien, et il précise son intention dans son communiqué, donc signé du 20 juillet 2021, « Il convient de conduire doucement l'ensemble des fidèles à la digne célébration de l'unique forme ordinaire. » Voilà son projet. Alors, que demandait... On voit que les évêques français se sont montrés prudents. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant, et même ils se disent surpris, est-ce qu'on peut dire pour autant que cela va contre leurs intentions, que pour attendre beaucoup de choses de leur part? Que demandaient-ils selon le rapport de la conférence des évêques de France que je vous ai cité tout à l'heure? Parce qu'il y a la question, mais quelle est la, ça finissait par une question, quelle marche à suivre? Avez-vous des conseils à poser sur la marche à suivre? Oui, quels sont ces conseils? Voilà ce qu'il donnait en 2020 comme conseil. Partager le même calendrier liturgique et le même lectionnaire. Revenir sur l'usage exclusif de la forme extraordinaire du rite romain. Et il signale un point d'attention, être vigilant à ne pas étendre la forme extraordinaire du rite romain. Alors peut-être n'ont-ils pas pensé qu'aller aussi loin, prendre des mesures aussi fermes, que ce qu'a pris le pape François, mais on ne peut pas dire que ça contredise tout à fait l'esprit qu'il manifestait dans ce rapport. Dans la question précédente de ce rapport, il y a la suggestion d'un évêque qui est signalé. Former quelques séminaristes à la célébration selon la forme extraordinaire du rite romain, quand je dis cette expression, je cite le rapport, afin de se défaire de la dépendance d'instituts particuliers, et notamment de la fraternité Saint-Pierre, qui célèbre exclusivement selon la forme extraordinaire. Voilà le projet. Après les réponses au Dubia, les projets se précisent. Les évêques se sentent encouragés, peut-être, à prendre des mesures plus fermes. Il ne s'agit pas de trouver des aménagements, mais de dialoguer, toujours, il faut toujours dialoguer. Pourquoi dialoguer? Pour imposer ces mesures. Monseigneur Lebrun, qui est responsable, je l'ai déjà dit, avec Monseigneur Le Borgne, du dialogue avec ces communautés, parle de ce qu'il va faire dans son diocèse à Rouen. Je souhaite que nous nous demandions, donc lui et la communauté présente dans son diocèse, c'est l'Institut du Christ-Roi, pourquoi il est important de vivre ensemble la même lex orandi et pour quelle raison la communion est troublée par la pratique de la liturgie préconciliaire. Je mesure que pour ces communautés, l'interprétation stricte qui est donnée du motu proprio confirmera leur sentiment d'injustice. Mais j'ai bon espoir qu'on avance vers une meilleure compréhension et qu'ils en tireront tout le bénéfice dans quelques années. Enfin, c'est juste un comprimé un petit peu dur à avaler, mais rassurez-vous, bon, vous, ça s'aillera mieux dans quelques temps. Monseigneur Rivière, évêque d'Autun, les relations de grande confiance qui existent dans le diocèse avec les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre et avec les fidèles, me font espérer que nous pourrons parler et avancer ensemble sur le chemin de l'unité. Je ne suis pas inquiet, mais ça appellera du temps à passer ensemble. Quelques cafés, quelques repas. Le Saint-Père nous demande en effet d'aider les fidèles attachés à la forme extraordinaire à accueillir la liturgie rénovée de Vatican II. Je suis persuadé que s'ils se prêtent à cette expérience, je cite toujours, ils seront les plus heureux du monde. Car cette liturgie, non seulement n'est pas contraire à la tradition, mais est profondément traditionnelle. Alors, je vous donne quelques exemples beaucoup de diocèses n'ont rien fait. Alors c'est déjà difficile d'expliquer pour une action, mais expliquer une inaction est encore plus compliqué. Et j'ai choisi quelques exemples dans les diocèses, donc faits avant la réponse au Doubia, qui me semblent emblématiques. Le premier exemple sur lequel je voudrais insister, c'est celui du diocèse de Dijon. Ne serait-ce que parce que chronologiquement, toutes ces mesures, peut-être Monseigneur Minrat était très informé, mais ces mesures sont arrivées avant même le motu proprio. Donc Monseigneur Minrat, par courrier privé du 17 mai 2021, a signifié à la Fraternité Saint-Pierre la fin d'une collaboration de 23 ans. Pourquoi ? Parce qu'il refuse de concélébrer. Il fait un communiqué en juin. Si les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre avaient accepté comme leurs prédécesseurs de la même fraternité, puisqu'il y a des bisbilles dans l'histoire de la Fraternité Saint-Pierre sur cette question de la concélébration. S'ils avaient accepté comme leurs prédécesseurs de marquer leur unité avec nous, au moins dans quelques concélébrations, et s'ils ne considéraient pas leur groupe de fidèles comme leur domaine exclusif, nous nous serions réjouis de leur contribution. Il ne revient pas sur sa décision. Dans sa lettre pastorale de l'avant 2021, qui est en même temps un peu sa lettre d'adieu, puisqu'il part à la retraite, il traite l'affaire presque d'une manière presque un petit peu méprisante, enfin en tout cas un peu ironique, disons. Au chapitre de la liturgie, nous avons assisté à une réaction haute en couleur de la part de pratiquants de la messe traditionnelle accueillis à la chapelle de la maison natale de Saint-Bernard. J'avais demandé que les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre montrent leur communion avec nous en acceptant, ne fût-ce qu'une fois l'an, lors de la messe chrisma, de concélébrer avec tous les prêtres. Il a été impossible d'obtenir satisfaction sur ce point, ce qui en dit long sur leur conception de l'Eucharistie et du mystère ordonné. Désormais, la messe sera célébrée par un prêtre de l'Institut du Christ-Roi qui est prêt, par ailleurs, à concélébrer avec nous. Il faut aider ce groupe de fidèles, il faut aider ce groupe de fidèles à ne pas se replier sur ses particularismes et à se sentir chez lui dans toute célébration eucharistique. C'est intéressant parce que différence entre ces communautés de réaction, entre ces communautés ex-Ecclesia Dei, certaines refusant toute célébration et d'autres n'hésitant pas à sacrifier, le principe de non, la nouvelle messe est mauvaise en soi, donc je ne peux pas y participer pour obtenir un ministère plus tranquille pendant l'année. Voilà. Ministère, simplement, il faut aider ce groupe à se sentir chez lui dans toute célébration eucharistique. Voilà, à l'apprendre, un peu comme Ancien de Galles, de Toulouse, à doucement être conduit vers l'unique forme ordinaire. Deuxième exemple, Strasbourg. L'évêque de Strasbourg, Mgr Ravel, applique sans en ajouter la lettre du motu proprio. Par exemple, il publie les lieux de célébration, les prêtres autorisés, parce qu'ils en ont fait la demande, et les confrères de Strasbourg m'ont confirmé que l'état des lieux avant le motu proprio est maintenu. Ceux qui célèbrent actuellement, qui ont eu l'autorisation, sont ceux qui célébraient avant et qui ont demandé cette permission. Cet état de lieu est maintenu, du moins dans l'immédiat, puisque le motu proprio permet d'aller dans un sens. ce maintien du statu quo est justifié entre autres par le fait, là je vous cite l'ordonnance de Mgr Ravel, que la paroisse personnelle de la Croix Glorieuse, érigée par Mgr Doré, son prédécesseur, en 2006, a fait l'objet par mes prédécesseurs et par moi-même de vérifications qui permettent de déterminer qu'elle ne nie pas la validité, la légitimité de la réforme liturgique dictée par le Concile Vatican II et le magistère des souverains pontifs. Voilà. C'est d'autant plus facile que la communauté des servantes, donc c'est les congrégations de la miséricorde divine, hein, du Père Loiseau, est biritualiste, même s'il célèbre beaucoup plus la messe traditionnelle. Mais je le signale aussi, donc jusque-là on pourrait dire qu'il applique sans en rajouter, mais c'est déjà injuste. Même appliquer le motu proprio sans en rien rajouter, c'est déjà injuste. Et un petit ajout du cru, quand même. Il invite à utiliser le lectionnaire de semaine promulgué en 1970, les jours de Ferry et lors des fêtes où le lectionnaire de 1962 ne propose que des communs répétitifs. C'est-à-dire que bien, pour l'épître, l'évangile, quand c'est ce qu'il appelle des communs répétitifs, voilà, quand il y a trop souvent la messe des confesseurs ou la messe de... Ah ben là, prenons le lectionnaire et faisons les mêmes lectures qu'à la nouvelle messe. Voilà. C'est ce que propose Mgr Ravel. Et le confrère me signale qu'il avalise ici une pratique déjà ancienne de cette paroisse personnelle. Par ailleurs, pour la solennité de l'épiphanie, alors là, c'est pas demandé par motu proprio, mais c'en est peut-être l'esprit, on s'alignera sur la date déterminée par la conférence des évêques de France. Donc ils ont dû la célébrer un petit peu avant nous. Alors vous voyez, si on voit, il est en usage du lectionnaire nouveau à la plupart des messes de semaine. On voit que la messe traditionnelle, le début de la messe traditionnelle, la messe catéchumène, finit par s'aligner sur la première partie de la nouvelle messe. Autre exemple qui me paraît intéressant, le diocèse de Grenoble. Monseigneur de Quérimel, qui vient d'être transféré à Toulouse, donc a pris des mesures qui touchent le ministère exercé dans le diocèse par la Fraternité Saint-Pierre. On peut dire une des mesures, entre guillemets, phares, c'est qu'il impose la messe Paul VI au moins un dimanche par mois. Donc il permet, voilà, aux deux endroits, à Grenoble et à Vienne, où c'était célébré, il permet donc de célébrer la messe traditionnelle, mais un dimanche par mois, l'unique messe célébrée sera la messe de Paul VI, messe en latin. Il est malin. Une messe de Paul VI en latin, bien célébrée. Là, vous pouvez pas refuser ça. Pour l'instant, si, il refuse. Mais... Donc c'est pour septembre 2022. Voilà, suspense, que va-t-il se passer? Donc la messe, un dimanche par mois, le premier du mois, la messe traditionnelle ne sera pas autorisée. Et le prêtre qui célèbre la messe traditionnelle doit s'engager formellement à la célébrer. Pour les confirmations, les baptêmes d'adultes, c'est comme d'autres diocèses, ça sera selon le nouveau rituel. À noter que le conseil presbytéral du diocèse voisin de Belley, là où nous indique, donc c'est Mgr Roland qui est dans ce diocèse, pour la mise en œuvre du motu proprio traditionnis custodes, les évêques de la province en ont parlé ensemble. Les communautés qui célèbrent dans le missel de Jean XXIII devront célébrer le premier dimanche du mois la messe de 2002 en latin. 2002 parce que c'est c'est l'ultime réforme du nouveau missel faite par Jean-Paul II. Donc là, ils devront célébrer le premier dimanche du mois la nouvelle messe en latin pour bien manifester la communion avec toute l'Église. Et dans cette province... Donc il y a Belley, il y a Grenoble, Lyon, Annecy, Valence, Viviers, et puis les diocèses alpins de Tarentaise, Maurienne. Vous pouvez voir là une vieille ruse, si je peux appeler ça comme ça, que relevait déjà Jean Madiran à propos du motu proprio de 1984. La circulaire romaine donne à ceux qui ont voulu supprimer la messe traditionnelle la faculté d'en autoriser la célébration à ceux qui font la preuve qu'ils n'ont aucun motif de la refuser. Là, je pense à cette phrase de Jean Madiran. Mgr Lefebvre la cite dans plusieurs conférences en disant que c'est une trouvaille géniale. Parce qu'effectivement, si on voit ce qu'il impose, la circulaire romaine donne à ceux qui ont voulu supprimer la messe traditionnelle la faculté d'en autoriser la célébration à ceux qui font la preuve qu'ils n'ont aucun motif de la désirer. De célébrer une fois par mois. Bon, pourquoi fois deux fois? Et puis ça rend service à la paroisse d'à côté. Ben, où s'arrêter dans ce cas-là? On voit que sans la conviction forte sur la nocivité du nouveau missel, il va être dur à certains de perdre tout leur ministère en refusant cette messe, ce grain d'encens une fois par mois. À noter d'ailleurs que Mgr de Quérimel a une autre phrase dans les lettres qu'il envoie à ses diocésains qui est très intéressante parce qu'il dit « Aucun de vous ne peut vous plaindre d'être abandonné. » Puisque vous appartenez à votre apostolat est confié à une fraternité qui reconnaît la bonté et la légitimité du nouveau missel et du nouveau rite des sacrements. Donc, en aucun cas, j'insiste sur ce point, enfin c'est lui qui insiste sur ce point, vous n'êtes pas abandonné. Il le répète deux fois dans sa lettre. Chacun de nous dispose dans l'Église, dans la liturgie de Saint Paul VI et de Saint Jean-Paul II, je cite, de tous les moyens de salut transmis par le Christ. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas vous plaindre, puisque vous reconnaissez la nouvelle messe, la bonté, la légitimité de la nouvelle messe, vous ne pouvez pas vous plaindre. D'autres cas emblématiques, Paris, donc il a autorisé 5 lieux, ça veut dire que c'est un peu comme les nouvelles paroisses quand on en crée, parce qu'il y avait 15 lieux où la messe traditionnelle était célébrée, il y en a désormais 5, c'est-à-dire qu'il y en a 10 qui sont passés à l'AS. Et à Nantes, là, c'est encore la fratrie des Saint-Pierre qui célèbre à Nantes, et puis qui célèbre aussi non seulement à Nantes, mais quelques lieux sur la côte qui ne sont plus autorisés. Maintenant, ça sera juste à Nantes. Ce qui a valu, m'a dit le confrère qui a célébré la messe de minuit à Noël, une assistance plus que débordante. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ces mesures sont prises par Mgr Perceroux, qui était auparavant évêque de Moulins. Et quand il était évêque de Moulins, il a pris un décret pour installer la fraternité Saint-Pierre, l'Institut du Christ-Roi, dans une église. Voilà. Et on retrouve toujours un certain esprit qui est celui du motu proprio. Voilà. C'est-à-dire que vous avez votre église. Mais, alors, quels sont les points de la charte qui leur impose? Les annonces paroissiales seront lues à l'issue de la messe dominicale. On fera les quêtes paroissiales, les quêtes impérées conformément aux prescriptions diocésaines. Les demandes de sacrement seront faites au curé de la paroisse. La préparation au sacrement sera assurée par la paroisse. En certaines occasions, il y aura une seule messe qui sera la messe nouvelle et auquel la communauté se joindra par souci de communion. Voilà l'esprit de nos évêques, voilà l'esprit de certaines décisions. On peut voir que, vous voyez, si les mesures voulues par le pape François sont, ont peut-être surpris les évêques, ils les ont surpris dans le sens où ils sont pas trop habitués à prendre des mesures qui tranchent. Voilà, là-dessus, le pape François a la main plus ferme. Mais ils n'ont pas vraiment une autre mentalité. Il s'agit donc d'éradiquer toute voix discordante, un tant soit peu discordante, parce qu'on a vu que la position de ces communautés, de ces groupes sur la messe, sur le concile Vatican II n'était pas d'une critique féroce, c'était quelques réserves. Mais même ces réserves, elles ne sont plus acceptables. Alors, on veut les éradiquer à un moment où l'échec de la pastorale conciliaire est de plus en plus patent et reconnu par des voix pourtant bien extérieures à la tradition. Et ça sera le dernier point que je voudrais aborder pour poser un jugement pastoral sur ces mesures. On a vu leur but. Dans la situation des diocèses français, que penser de ces mesures? Alors, quel est l'état du catholicisme en France? Pour diverses raisons, bien des livres paraissent en ce moment, des livres passionnants qui étudient cet état, de manière précise, l'état du catholicisme en France. Et un sociologue qui, Jérôme Fourquet, a publié un livre, donc il a écrit dessus 100 000 exemplaires vendus, donc je ne suis vraiment pas le seul à l'avoir lu, puisqu'il a eu au moins beaucoup d'acheteurs, si ce n'est beaucoup de lecteurs. Et il parle du catholicisme en France comme en état de dislocation terminale. Voilà. C'est pas un tradit, il ne dit pas ça pour... voilà. Mais voilà le résultat du catholicisme en France. De nombreux travaux de sociologie se sont penchés sur la chute très spectaculaire de la pratique religieuse qu'a connue notre pays dans la seconde moitié du XXe siècle. Or, il ne s'agit plus d'étudier aujourd'hui le rythme du phénomène, mais bien plutôt de prendre acte du fait que nous sommes désormais parvenus au terme du processus. Certes, un certain nombre de nos concitoyens se définissent toujours comme catholiques, mais ils représentent une minorité restreinte qui n'est plus en mesure de peser significativement sur le débat public. Dans un pays qui fut longtemps considéré comme la fille aînée de l'Église, il s'agit d'une rupture historique de taille. Nous sommes ainsi entrés dans une nouvelle ère qu'on pourrait qualifier de post-chrétienne. Le constat apparaît certes comme bien radical, mais de nombreux symptômes nous semblent attester de cette réalité nouvelle et sans précédent. Alors le sociologue prend de nouveaux exemples qui témoignent de cette disparition du catholicisme en France, et même aussi du vernis culturel chrétien qui pouvait encore subsister, demeurer. Même ce vernis est effacé et dilué. Le référentiel catholique est aujourd'hui profondément enfoui dans les consciences et affleure de moins en moins. Alors pour vous donner une idée du phénomène, avant d'indiquer les statistiques que j'ai jugées les plus frappantes, l'an 2000, c'est pas si longtemps, l'an 2000. L'an 2000, quelle année de foi, quel moment de foi l'an 2000 en France. Rendez-vous compte, au moment de l'an 2000, il y avait 400 000 baptêmes, 400 327. 2018, 215 551. Soit une baisse de 46,2%. Effondrement en moins de 20 ans, effondrement du nombre de baptêmes. Il donne une précision dans un autre livre qui est, je ne vais pas dire que c'est amusant, en soi c'est triste, mais en tout cas c'est assez frappant. Il cite une étude des milieux populaires de l'Est de la France qui explique que la naissance d'un enfant n'est plus guère suivie de son baptême. Voilà, avant on pouvait encore, mais on ne pratiquait pas beaucoup après, continuer à faire baptiser son enfant. Voilà. Mais désormais, non. Même ce rite un peu social a disparu. Donc, dans ces milieux, la naissance d'un enfant n'est plus guère suivie de son baptême, mais souvent du tatouage de son prénom sur la peau d'un parent, souvent la mère. Voilà. Autre signe indélébile, autre mœurs. Donc, d'autres statistiques, je vous donne celles que j'ai les plus frappantes. 53% de la population française se désigne comme catholique. Ça se trouve, ils ne savent même pas trop ce qu'ils disent en disant ça. Mais ils se désignent comme catholique. Contre 81% en 1978. Donc, au début du pontificat de Jean-Paul II. 4,5% seront à la messe une fois par mois, 1,8% chaque dimanche. C'est assez difficile de trouver des statistiques claires, d'ailleurs. Là-dessus, le journal La Croix a quand même des côtés pratiques. Parce que ces statistiques, il les a faites en 2017. Division par 3 du nombre de prêtres religieux et religieuses, de 1950 à 2015, de 177 000 à 51 000. Sans inversion de tendance, là je cite Fourquet, et l'on voit mal à ce jour ce qui pourrait la provoquer. D'ici 30 ans, la France ne comptera plus un seul prêtre catholique. C'est une interview, on signale que l'évêque de l'Ardèche est le plus jeune prêtre de son diocèse, par exemple. Autre aspect important, là c'est Guillaume Cuchet, un autre professeur d'université qui le dit, c'est ce qu'il appelle le croisement des courbes de ferveur. Je trouve ça assez frappant. En France de nos jours, parmi les 16-29 ans, 23% se considèrent comme catholiques, 2% protestants, 10% musulmans et 64% sans religion. Mais un autre sondage, là c'est juste qu'est-ce que tu es catholique, je suis catholique. Un autre sondage montre que parmi ceux qui déclaraient attacher beaucoup d'importance à leur religion, pas simplement que je suis catholique, mais vraiment ça compte pour moi, c'est une certaine influence dans ma vie. Il y avait désormais en France, à effectif absolu, plus de musulmans que de catholiques. Donc ça, c'est en 2011. Ça a peut-être évolué, mais c'est ce qu'il appelle un croisement des courbes de ferveur et non, entre islam et catholicisme, qui est, dit-il, ce professeur d'université, un événement capital. Désormais, beaucoup plus il y a plus de musulmans pratiquants chez les jeunes que de catholiques pratiquants. Au-delà de ces chiffres, le catholicisme recule même comme culture. Il y a toute une étude sur le prénom Marie. Voilà. Alors, c'est un prénom qui peut être très répandu dans certaines communautés religieuses. Je sais pas. Mais en France, c'est devenu un prénom rare. Voilà. Très prénom rare. Aussi, perte d'influence dans les comportements, choix moraux. Voilà. Les catholiques ne se distinguent plus du reste de la population. Il n'y a aucune spécificité catholique, ni même par région. Et ça aussi, c'est nouveau. Suivant le mariage, quant au mariage, ils ne se marient plus comme les autres. Les naissances hors mariage, les avortements, les relations prémaritales, tout ça, les catholiques ne se distinguent plus du reste de la population. Qui surnage les groupes les plus conservateurs, quelques groupes d'immigration récentes. Les vocations sacerdotales et religieuses ont même tendance à diminuer dans certains milieux, comme l'aristocratie française, qui représente 0,2% de la population, mais jusqu'à 10% des vocations subsistantes. Entre les deux, entre ces classes élevées et les fidèles issus de l'immigration récente. Ce qui fait défaut, ce sont les classes populaires et moyennes blanches, c'est-à-dire malgré tout l'essentiel de la société française. Donc un affaissement considérable de l'Église et donc des diocèses, sans compter les effets Covid et rapports sauvés qui n'ont pas encore été évalués. Et affaissement considérable, ce qui est aussi nouveau et très, qui me semble important, c'est que sur cet affaissement, on va dire, bon, bah, c'est les malheurs des temps. Voilà, c'est peut-être aussi en partie vrai, les malheurs des temps. Mais ce n'est pas simplement les malheurs des temps. Et là-dessus, il y a des analyses intéressantes, qu'il me reste intéressant de pouvoir citer, connaître, sur la part du Concile Vatican II dans cet effondrement. Et là-dessus, c'est juste pour faire, je ne le vends pas, mais m'inciter à lire un livre qui m'apparaît intéressant de Guillaume Cuchet, qui s'appelle « Comment notre monde a cessé d'être chrétien ». Ça m'a même paru en édition de poche, c'est encore moins cher. Et il explique qu'on a longtemps insisté sur des causes extérieures à l'Église pour expliquer cet effondrement. Montée du matérialisme, de l'individualisme, changements économiques, sociaux, culturels. Or, une analyse comme la sienne, qui ne vient pas d'un farouche intégriste, il est professeur à Paris-Est, Créteil, vient insister sur une cause tout à fait interne, qui est le rôle du Concile Vatican II, ce concile dont Traditionis Custodes veut empêcher toute ébauche d'esquisse de risque de contestation. Le rôle du Concile Vatican II dans cette chute. Alors, comment s'y prend-il? Eh bien, il a établi la chronologie exacte de cette chute. Et c'est très intéressant. Les historiens sont tous plus ou moins d'accord pour dire que c'est dans les années 60. Mais bon, c'est large les années 60. Et puis qu'est-ce que les années 60? On n'était pas sûr, on n'a jamais trop cherché. Et puis c'était une inconnaissance assez facile pour dire bon, bah, c'est la faute à la société de consommation, à l'individualisme, etc. Et puis il y a un processus long où les gens ne pratiquent plus. Alors, mais lui il va dire non, ça correspond à une date bien précise. Voilà. Il y a eu une rupture brutale, massive et spectaculaire qui s'est produite à la fin du Concile, en 1965. Mais, dit-il, la sanctuarisation idéologique du Vatican II a empêché de tenir un discours objectif sur le sujet. C'est intéressant parce qu'il ne dit pas, bon, il dit pas qu'il est pour ou contre Vatican II. Non, il dit, si on regarde les chiffres, quand c'est que la courbe de fréquentation des églises, c'est ça qu'il étudie, la pratique. La pratique, pas juste je me sens catholique, quoi, dans la pratique. Eh bien, il y a eu un effondrement, qui s'est continué par la suite, mais il y a un vrai effondrement en 1965. Alors, le temps passe, alors j'accélère, ou plutôt pour pas trop accélérer, je saute, mais il s'appuie sur les travaux rassemblés par un chanoine, Chanoine Boulard, qui est un statisticien. Il a fait des cartes, parfois des cours de catéo, on utilise des cartes, le relief de la France industrielle, la France viticole. Bon, lui, il a fait une carte, la pratique de la France. Alors, il a fait la pratique de la France rurale, la pratique de la France urbaine, etc. Il en donne plusieurs éditions, et pour ça, ben, il interroge les curés. Voilà, combien pratiquent chez vous, etc. Et puis, il a tout un réseau. Alors, cette mode des chiffres s'essouffle un peu à la fin des années 60, mais elle lui laisse le temps de quantifier ce qui était un ressenti sur le terrain. Les années immédiatement après le Concile, loin d'apporter le renouveau espéré de la pratique, loin d'enrayer la baisse, accélèrent cela. Et le chanoine Boulard en fait le constat dès 1968, sans dramatiser cette baisse, il faut encore un peu d'espoir, elle est d'une intensité exceptionnelle sur une si courte durée. Alors de son analyse, voyez, il fait une étude des chiffres de Boulard, après il fait des études de cas, il montre la réalité de la rupture. Un décrochage brutal qui fait perdre en 6 ou 7 ans 40% de ses fidèles à l'Église. C'est quand même pas mal. Et puis, le fait que cette rupture ait eu lieu au milieu des années 60, en 1965 même, plutôt qu'en 1966, est fondamental. Et puis, qui a été concerné par cette rupture, spécialement les 12-24 ans? Les adolescents à qui on doit transmettre l'héritage, et à qui cet héritage n'a pas été transmis. Alors, il manifeste, je vous passe les chiffres, les tableaux, les dates, la chronologie, c'est assez passionnant. Il manifeste donc l'existence de cette rupture, mais d'où vient-elle? D'où cette rupture, puisque rupture il y a eu lieu, les chiffres le montrent et montrent la date. A-t-elle bien pu venir? De nulle part, du hasard? Non. Il faut qu'il y ait eu un événement derrière un phénomène de cet ordre, au moins pour le provoquer. Mon hypothèse est qu'il s'agit du Concile Vatican II. On ne voit pas quel autre événement contemporain aurait pu engendrer une telle réaction. Vatican II a été cette réforme qui a déclenché cette révolution qu'elle prétendait éviter. Alors, la suite de son livre donne des causes plus ou moins d'accord sur les causes d'un livre qui en reste un constat purement sociologique, même si c'est assez intéressant. Voilà. Mais il manifeste bien, c'est intéressant, il n'est pas en train de dire du coup les traditionnalistes ont raison. Non, c'est pas du tout son propos. D'ailleurs, dans le deuxième livre qu'il fait, on lui demande ses perspectives pour l'Église, alors il se lance dans une espèce d'évocation d'un catholicisme culturel un peu fumeux. Bon, voilà. Mais voilà, c'est intéressant, il a établi, en histoire, c'est quand même intéressant, d'abord établir la chronologie. Voilà. Chronologie de l'effondrement, là, ce terme est précis, et il ne voit pas quel autre événement, il va donner quelques, en sondant les prédications, au départ, il est spécialiste des fins dernières, au 19e et 20e siècle. Donc en sondant, par exemple, la manière dont on prêchait les fins dernières, la manière dont les fins dernières ont été carrément oubliées à ce moment-là, en analysant les sermons des curés, les bulletins provinciaux, eh bien, lui, il dit non, on voit vraiment que Vatican II a déclenché cette réforme en entraînant une certaine prédication, en entraînant un certain esprit. Cet échec aussi est reconnu par les acteurs eux-mêmes, mais je passerai vite puisque le temps court. C'est-à-dire que comme les témoins du Concile Vatican II, eh bien, le temps passe, eh bien, ils sont en train de mourir. Il y a toute une série de livres qui paraissent et, à la manière assez moderne, recueillent les mémoires. Alors, par exemple, il y a un livre qui s'appelle « Catholique, rouvrez la fenêtre ». Alors, c'est un peu chaud, mais... la personne qui a dirigé, qui a lancé en tout cas ce livre, c'est Anne Soupa. Elle préside la conférence des baptisés E.E.S, donc en langage inclusif, pour vous montrer l'esprit. Bon, alors, c'est pas pour ses commentaires que c'est intéressant, mais c'est plus pour les témoignages des vieux curés. Voilà. Et alors, eux qui ont fait Vatican II, ils avouent être désolés, désappointés, car il leur semble que l'élan qui les avait motivés et portés n'a pas été transmis. En particulier, ces vétérans de Vatican II notent un fossé de génération. Les jeunes prêtres sont moins attachés à des attitudes, des symboles qui leur semblaient, eux, attachés à l'esprit conciliaire d'ouverture au monde. Par exemple, ici, un vieux prêtre, lors d'une réunion sacerdotale, plus on se rapprochait des prêtres ordonnés en 1995, plus on avait des prêtres en col romain ayant peur de leur ombre. Vous voyez, sans identifier ces prêtres en col romain à des tradis, on peut toutefois y voir une disposition à ne pas considérer la pastorale conciliaire comme un totem intouchable, et au contraire à considérer la pastorale traditionnelle avec davantage de bienveillance que leurs aînés. Autre aveu désabusé, Mgr Noyer, qui était l'évêque d'Amiens, qui a ferraillé avec le curé de Doncoeur. J'ai le droit d'être sincère, il fait ses mémoires. J'ai le droit d'être sincère et d'avouer que nous avons perdu. Nous avons perdu. La génération sortie de l'après-guerre, avec l'envie de changer les choses, disparaît et le paysage retourne à sa tradition. Alors encore, ce qu'il appelle tradition, c'est pas vraiment ce qu'on appelle tradition. Mais ça montre un certain mouvement de détachement de la pastorale conciliaire. J'ose pas citer un autre livre qui s'appelle « Mon curé fait sa crise ». C'est ma belle-sœur qui me l'a offert, alors je sais pas ce qu'elle pense. Mais l'intrigue n'est pas extraordinaire, mais alors c'est très intéressant parce que justement là-dedans, le curé, lui, se situe dans cette génération des années 90. Et il a dû ferrailler contre ses confrères des années 80. Et il est un peu jaloux du confrère ordonné dans les années 2000 qui, lui, a le droit de porter soutane et col romain. Après, lui, il s'est arrêté au col romain, etc. Un fossé de génération assez intéressant. À propos de ce fossé entre générations, un autre historien, Yvon Tremvoise, dont je soupçonne qu'il est breton, en tout cas, c'est lui-même, c'est un ancien catho de gauche, observe que si Benoît XVI parlait de Vatican II comme de la boussole qui doit orienter la vie de l'Église, cette boussole a sans doute quelque chose d'un boulet. On voit mal comment les jeunes catholiques d'aujourd'hui pourraient s'identifier à une telle querelle d'anciens combattants. Alors vous voyez, malgré l'échec de la pastorale conciliaire, manifestée par des milieux bien étrangers aux intégristes, on veut l'imposer à tous sans restriction, en éteignant tout foyer potentiel de remise en cause, même bien légère. Alors, quel jugement porter sur ces mesures? Eh bien, je dirais en un seul mot, qu'elles manifestent un aveuglement idéologique persistant. Ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, l'échec est patent. Et en plus, non seulement les faits montrent que ça ne fonctionne pas, mais la responsabilité de cette pastorale dans ce qui ne fonctionne pas. Eh bien, continuons. Comme le soulignait Louis Veuillot, que Mgr Lefebvre cite dans plusieurs conférences, comme une belle conférence à Annecy, il n'y a rien de plus sectaire qu'un libéral. aveuglement idéologique qui aveugle. Il n'y a rien de plus sectaire qu'un libéral. Reste que l'adversité peut être l'occasion de remise en cause qui pourrait être bénéfique, l'occasion de choix douloureux, mais dont on se rend compte qu'ils sont nécessaires, choix qu'indiquaient déjà les auteurs du bref examen critique de la nouvelle messe. La promulgation du nouvel ordomissé met chaque catholique dans la tragique nécessité de choisir. Alors prions pour tous ceux qui ont à faire un choix en voyant ces mesures et en voyant l'esprit de ces mesures, eh bien choisissent vraiment et fassent le bon choix.
Merci beaucoup, M. Dappé, pour cette communication de grande qualité, bien documentée, chiffrée, précise, nette, claire. Je peux dire d'ailleurs que M. Dappé, donc, qui lit ces sociologues, a raison, parce qu'encore une fois, ce ne sont pas des gens de chez nous, mais les chiffres ne sont pas lefébristes. Les chiffres sont ce qu'ils sont et... il faut en prendre connaissance. Les statistiques sont têtues comme les faits. Nous allons prendre maintenant un quart d'heure de pause, si vous voulez bien. Je crois que vous voulez bien. Nous retrouvons donc dans un quart d'heure pour la conférence de Michel Pagliarani. Mettez à profit ce moment de repos pour aller voir à la librairie les... Alors j'attire votre attention sur non seulement la revue Le Courrier de Rome, mais aussi les publications. Parce que tous ces congrès font l'objet d'actes, et ces actes sont à votre disposition. Donc n'hésitez pas à vous procurer les actes des derniers congrès. Vous pouvez également aussi vous procurer une nouvelle de chrétienté. Et d'ailleurs, Jérôme Fourquet comme Guillaume Cuchet ont été analysés en leur temps dans une nouvelle de chrétienté. Il y a un prix exceptionnel pour le congrès, 2 euros, profitez-en. Même chose pour d'ici, qui paraît tous les mois. Vous avez aussi le livre de M. Salleron, et il a été question à plusieurs reprises de M. Salleron, puisque c'est à lui qu'on doit une des premières et bonnes analyses sur la messe. Et puis il y a l'ouvrage sur Don Omour, qui fut un grand ami de l'abbé Salleron. Et je salue en passant le relecteur et le préfacier de l'ouvrage, il se reconnaîtra. Voilà. Jacques Dossi, c'est l'ancien. Il peut deuxièmement avec le général.